dans le tempo, c'est l'épisode 8, c'est parti. Thomas présente. Dans le tempo. Vous êtes bien dans le tempo, vous connaissez le principe, je suis avec mon gars Michel, aka Chronomusic, pour parler justement de musique. Si vous êtes un passionné, vous êtes au bon endroit. Comment
et
ça va
chrono.
Michel?
Et
de
chrono,
si vous êtes passionné de chronomusique, vous êtes aussi au bon endroit.
Ouais.
Bah oui, ça va, écoute, c'est quoi? J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on n'a pas enregistré d'émission.
Alors qu'en fait,
qu'on a juste une semaine de décalage, parce qu'avec Noël, on a un petit peu changé le rythme.
Ouais, mais il s'est passé tellement de trucs.
Mais c'est plein de choses, et puis surtout, je pense, en fait, ça m'a manqué, donc je suis d'autant plus content de revenir dans l'émission, qu'on refasse ça, qu'on va aborder un sujet essentiel aujourd'hui, celui du droit d'auteur, Michel.
Le droit d'auteur, Michel.
Parce que je connais quand même un paquet de musiciens qui sont largués sur la question. Il y a régulièrement des batailles juridiques sur les droits. Et même quand on est juste amateur de musique, bah, c'est important de comprendre un peu les mécanismes qui permettent aux artistes d'être rémunérés, de protéger leurs œuvres, etc. Et tout ça, bah, ça passe notamment par le droit d'auteur. Et pour discuter de toutes ces questions, on a fait appel à un expert, Patrice Lazareff. Merci Patrice d'être avec nous, comment ça va?
Ça va très bien, merci à vous de me recevoir, bonjour.
C'est un plaisir de prendre un peu, merci, oui, effectivement, de prendre un peu de ton temps, mais il faut quand même que nos auditeurs sachent qui tu es. Michel, est-ce que tu peux nous présenter un peu Patrice?
Michel, présentation Patrice, deux points. Patrice, c'est un professionnel de la musique assez atypique. Alors Patrice, t'es ingénieur son depuis une trentaine d'années, ingénieur du son même si je puis me permettre, mais au fil du temps tu as développé bien d'autres compétences, tu écris sur la musique dans des journaux, t'es développeur web également, mais surtout tu as obtenu à la fin des années 2000 un master en droit des affaires, c'est pour cette partie de ton profil en particulier qu'on t'a invité, et tu t'es spécialisé dans les questions juridiques autour de la musique. T'as publié notamment le guide juridique du musicien en 2019, et tu enseignes l'industrie musicale et le droit dans deux écoles, donc la SAE et à l'Abbey Road Institute, excusez-moi du peu. En résumé, tu connais la musique et surtout tu maîtrises sur le bout des doigts les questions liées à l'industrie musicale, notamment d'un point de vue juridique. Et c'est exactement ce dont on avait besoin dans cette émission aujourd'hui. Bienvenue à toi, Patrice.
Bah oui, bienvenue.
Merci. Et tu es très BG également. Salman ne l'a pas noté. Je me permets de le rajouter.
C'est vrai qu'on devrait mettre une note pour chaque invité. Ouais. C'est absolument horrible. Dis-moi Patrice, débuter la conversation, on s'est dit qu'on ferait bien une première partie sur une notion un peu plus générale qui est celle de la propriété intellectuelle. Parce que les droits d'auteur, ils en découlent en fait de cette notion de propriété intellectuelle. Allons-y petit à petit. Vous êtes musicien, vous voulez comprendre un peu comment ça se passe, comment on protège son œuvre, comment on la dépose, à quoi ça sert, est-ce que c'est pour la rémunération, etc. On va aborder tout ça tranquillement. Mais déjà, Patrice, voilà, la propriété intellectuelle, c'est quoi? C'est une notion légale, juridique? En quoi ça consiste?
Ah, c'est une notion tout à fait légale et juridique. En fait, ça va être l'ensemble des règles de loi qui encadrent la manière dont on gère ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Et qui, en fonction du rôle qu'on joue dans la production d'une œuvre artistique, alors ce qui nous intéresse, nous en particulier ici, c'est la musique, qu'est-ce qui appartient à qui? Voilà. Mmh. Qui est propriétaire de quoi? Et je crois que la chose la plus importante est celle dont je constate régulièrement qu'elle est à la fois simple et en même temps très difficile à appréhender. C'est la différence qui est, à mon sens, fondamentale qu'il faut faire entre un auteur et un artiste. Parce qu'on a, d'un côté, des gens qui écrivent de la musique, qui écrivent des paroles. Ceux-là sont les auteurs. Ils ne sont pas nécessairement connus du public. On peut être auteur et vivre dans une grotte au fin fond de la forêt. Et puis, de temps en temps, on envoie par la poste des partitions ou des textes. Et puis, personne ne vous connaît. Et ces œuvres-là, ça c'est l'œuvre. Donc, le fruit de ce travail intellectuel, c'est pour ça qu'on appelle ça de la propriété intellectuelle, c'est un travail purement intellectuel. Et pour que ça puisse arriver jusque dans les oreilles du public, il faut qu'il y ait une partie qu'on va appeler la part matérielle, qui est du travail manuel presque, ou du travail physique, qui va être celui d'un artiste, qui va interpréter l'œuvre. Alors, là où les choses deviennent compliquées, C'est que, bien évidemment, assez souvent, on peut être les deux à la fois. Et c'est pas incompatible. À partir du moment où on joue sa propre musique, on devient à la fois, on devient artiste et on est évidemment aussi l'auteur.
Avant qu'on rentre dans les détails, justement, des différents cas, quand on est artiste, lorsqu'on est auteur seulement, je sais qu'il y a d'autres cas aussi même qui peuvent exister, quand on est producteur, par exemple, ce genre de choses. Avant qu'on rentre dans cette, vraiment ce détail-là, à quoi ça sert justement d'avoir établi une base, un droit comme ça pour, par exemple, si on prend le cas de l'artiste, est-ce que c'est dans un but de lui assurer une rémunération pour qu'il puisse être payé? Est-ce que c'est pour protéger globalement? À quoi ça sert tout ça en fait, cette base?
Alors, que ce soit pour l'artiste ou pour l'auteur, là c'est vraiment général, ça sert à deux choses essentiellement. La première, c'est pouvoir garder un certain contrôle sur les utilisations qui sont faites de son œuvre ou de son interprétation quand on est artiste. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne une possibilité d'autoriser ou d'interdire telle ou telle utilisation. Par exemple, j'ai écrit une chanson et puis je découvre que, je sais pas, telle ou telle organisation, une société commerciale, par exemple, s'en sert pour sa publicité, ou un parti politique dont je n'approuve pas les idées s'en sert à ses meetings. À ce moment-là, je garde, en tant qu'auteur, le pouvoir d'interdire telle ou telle utilisation. Donc ça, c'est la première chose. Ça sert à contrôler. Ça
par exemple,
sert aussi...
Si demain, le Rassemblement National veut utiliser une musique de Michel Zizi Kaka, par exemple, pour un meeting, il a le droit de dire non, j'ai pas envie.
Exactement, oui.
Mais moi, je suis plus un partisan du chaos, donc j'aurais tendance à dire faites ce que vous voulez, Zizi Kaka n'est pas à moi, il vous appartient.
Ah bah, alors là, ça, c'est très généreux, mais c'est encore une autre
c'est
chose.
C'est tout
mais
moi,
là,
ça.
La première partie, en tout cas, ça sert à ça. Ça sert à contrôler ce qu'on fait de son œuvre, ça sert à s'assurer et éventuellement à imposer aux gens qu'ils associent ton nom. Et que ça soit mentionné. Donc ça, c'est la partie protection de l'œuvre. Et puis la deuxième partie, c'est ce que tu disais, c'est gagner sa vie avec. C'est-à-dire que cette autorisation qu'on va donner, oui, je vous autorise à utiliser ma musique, mais je ne vais pas le faire gratuitement. Alors, ce n'est pas le cas de Michel pour Zizi Kaka, mais...
Michel, il veut quand même l'argent. Il veut bien... Il dit tout le monde peut le faire, mais il veut de l'argent en échange.
Ah oui, non, moi, c'est ça.
Ah oui, alors là, bon. Eh ben,
je suis vraiment dans la monétisation.
La propriété intellectuelle, ça sert aussi à ça. Ça sert à pouvoir exiger d'être rémunéré. Et dans le cas des auteurs, la loi en France, en tout cas, précise même que cette rémunération doit, sauf quelques cas exceptionnels, être proportionnelle aux recettes qui sont générées par l'utilisation qui est faite de l'œuvre. Donc, c'est ces deux éléments-là, protéger d'un côté et avoir une rémunération de l'autre.
Est-ce que, si je ne dis pas de bêtises, d'un point de vue juridique, ce qui est du domaine un peu de la protection, ça serait le droit moral, et ce qui est plus du côté un peu financier, rémunération, serait le droit patrimonial, c'est ça ou
C'est exactement ouais. ça, on ne peut pas mieux dire.
Okay.
Parce que ça s'appelle le droit patrimonial. Alors, le droit moral, lui, on ne peut pas le vendre, hein, c'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle, la loi appelle ça, il est attaché à la personne de l'auteur. C'est-à-dire c'est comme une seconde peau, on ne peut absolument pas s'en débarrasser. Et puis, le droit patrimonial s'appelle comme ça parce qu'en fait, il rentre dans son patrimoine et ça fait partie, c'est une partie du patrimoine hein, parce qu'en fait, un auteur se comporte, est un propriétaire. En fait, c'est quelqu'un qui fait payer l'accès à son domaine. Pour que des gens puissent l'admirer et en exploiter les fruits, pour aller les récolter les fruits et aller les vendre au marché. Donc c'est ça, le droit patrimonial, ça fait partie de son patrimoine en effet.
Et à ma connaissance, il y a une différence, et je pense qu'elle est importante, il faudrait que tu nous en parles un peu, c'est que le droit moral, il est intemporel, c'est-à-dire que pour toujours, fondamentalement, à part si je dis une connerie, hein, tu me dis, mais quelqu'un, le créateur d'une œuvre... on reconnaîtra son droit moral, c'est-à-dire que sa propriété intellectuelle, et notamment sur le fait qu'il a un droit de regard sur comment ça va être utilisé, etc., tout le temps, toute sa vie, absolument tout le temps.
Non seulement toute sa vie, mais pour toujours, c'est-à-dire qu'il est perpétuel. Ses héritiers après lui, alors soit ses héritiers naturels, ses descendants, ses enfants, quoi, soit les héritiers qu'il aura désignés par testament, et ça, pour toujours, auront toujours un contrôle et ce regard sur l'utilisation qui est faite de l'œuvre. Et en plus, il est imprescriptible, donc ça veut dire qu'il ne s'éteint pas tout seul, c'est pas parce qu'on ne s'en sert pas qu'il ne fonctionne plus. On peut passer des années et des années sans avoir de soucis, être obligé d'aller en justice pour faire respecter son droit moral, mais même au bout de 30 ans, 50 ans, 150, 200 ans, les héritiers pourront toujours dire « Ah mais non, mon papy il aurait, ou ma mamie n'aurait jamais voulu que vous fassiez ça avec son texte ou avec sa musique, donc je vous empêche de le faire. »
Et à l'inverse, ce qui est de l'ordre du droit patrimonial, c'est-à-dire de la rémunération, etc., en général, il y a des contrats derrière. On sait par exemple qu'au bout d'un moment, ça rentre dans le domaine public. La temporalité n'est pas la même. C'est ça que je cherche à dire.
Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est du droit patrimonial, donc le fait de pouvoir gagner de l'argent, parce que le droit moral, on ne peut pas le vendre. Donc, on ne gagne pas d'argent avec. Juste, on contrôle son œuvre. Mais le droit patrimonial, ça va s'éteindre. Alors, lui, c'est prévu 70 ans après la mort de l'auteur ou après la mort du dernier co-auteur. Donc, c'est variable d'une œuvre à l'autre, hein, parce que si on, par exemple, quelqu'un compose de la musique et puis s'associe avec un parolier qui, lui, va faire des paroles sur cette musique, et ça va donner une chanson, à ce moment-là, les deux sont copropriétaires de cette œuvre. Et donc, cette œuvre-là ne sera réutilisable sans rien payer par les utilisateurs de l'œuvre, seulement 70 ans après la mort du dernier. Par exemple, si on prend les Beatles, les chansons des Beatles ne seront dans le domaine public que 70 ans après la mort de Paul McCartney, qui est aujourd'hui, ah ben non, il y a Ringo Starr. Alors tout dépend, ils vont se tirer la bourre. Hein. Ça sera 70 ans après. Ah ben non, parce que Ringo Starr a pas rarement participé à la composition. Donc comme c'était signé Lennon-McCartney, Lennon, comme on le sait, est mort il y a déjà pas mal d'années. Ça tombera dans le domaine public 70 ans après la mort de Paul McCartney.
Tu sais quoi, il va falloir qu'on rentre dans les détails un peu justement lorsqu'il y a collaboration et les différences notamment entre droit voisin, droit d'auteur. Mais juste avant, j'aimerais demander un peu à Michel, est-ce que tu t'es déjà intéressé à ça, parce que quand tu produis de la musique, toi tu vends de la musique, etc. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Est-ce que tu as dû te pencher forcément là-dessus quand tu t'es dit « Ah bah je commence à avoir une rémunération d'échange de ma musique » Et aussi autour de toi, tu vois, les musiciens, est-ce que tu as l'impression que c'est une question qu'ils se posent? Comment c'est vécu un peu dans le milieu musical du côté musicien?
Je saurais pas parler au nom des autres, tu vois, ouais. Mais en ce qui me concerne, je sais que j'aurais dû, il y a bien longtemps, m'intéresser à cette question. Ouais. Et que je l'ai jamais vraiment fait. Je connais deux, trois bases et je sais ce que je vends quand je vends une compo. Mais en général, moi, je fonctionne, je vends tout, quoi. Je dis, vous avez tous les droits. Pour tout, partout.
Pour exploiter
machin.
Comme il le souhaite, et en échange, tu prends ton billet, et voilà, ça s'arrête à ça.
Je prends un immense billet, par contre. Mais oui. En gros, c'est comme ça que je fonctionne.
Et tu t'es jamais dit, est-ce que je dois m'entourer justement de quelqu'un, est-ce que je dois approfondir ça, ou ça te casse les couilles parce que c'est administratif?
Non, c'est juste qu'à la base, déjà, il fallait que je mange. Ouais. Et là, ici, ça fait pas si longtemps que je mange. Et bon, voilà, je procrastine un peu sur le côté. Allez, maintenant, pour que ce soit pérenne, il faut quand même que je m'intéresse à ces questions-là et tout ça, tu vois. Donc là, ici, je suis dans une opportunité très, très bien avec un expert dans un podcast et tout ça. Donc,
personnelles, on lui demandera dans l'émission.
Contre un billet, bien sûr. Hein, moi, je donne un billet, il n'y a pas de souci, une petite consultation, c'est normal. Mais sinon, ouais, je pense que... Et je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est une tendance un peu générale. Même si j'ai un profil assez particulier dans la mesure où moi, je ne suis pas artiste vraiment. Je suis plutôt un artisan. Je fais de la musique sur mesure. Les gens, ils viennent me voir, ils ont une commande. Ils ont tel type de projet. Moi, mon truc, c'est de traduire leur projet en musique. Et moi, c'est entre guillemets, pas du tout entre guillemets, je l'assume, c'est ce savoir-faire, mon ami, que je vends. Comme moi, je considère ça un peu comme une coupe de cheveux. Je suis un peu un coiffeur visagiste pour les projets musicaux des gens. Mais du coup, je ne suis pas vraiment dans le bail de « je suis artiste et ma musique va être diffusée en radio ou peut être utilisée dans des films ou des machins ou des trucs comme ça ». En général, les gens, ils ont un projet, c'est un dessin animé, c'est une pub, c'est un documentaire, c'est machin. Et moi, je réalise mon truc pour ce projet-là. Mmh. Et je donne tous les droits et voilà.
L'exploitation, etc.
Parce que je sais qu'il y a un manque à gagner, tu vois. Mmh. Mais pour l'instant, en gros, je me paye ce luxe-là, quoi. Je me paye le luxe de pas me poser ces questions-là pour l'instant.
Parce que Patrice, toi, c'est un truc que tu observes, parce que tu es aussi ingénieur du son, tu as fréquenté dans ta vie beaucoup d'artistes et de musiciens, j'imagine. C'est un truc, c'est une méconnaissance globale et pas un désintérêt, mais en tout cas, ne pas assez se pencher sur ces questions, ce qui peut d'ailleurs leur jouer des tours, se faire au détriment de l'artiste. Tu l'observes, ça?
Ah bah ça, on fait plus que oui, ça, on l'observe systématiquement. Alors après, il y a deux réponses à ça. C'est d'un côté, être artiste, c'est à quoi on est le meilleur, finalement, dans les différentes activités qu'on peut avoir. On va penser qu'un artiste ou un auteur, il est plus intéressant pour lui comme pour tout le monde, qu'il passe un maximum de temps à écrire de la musique, à composer de la musique, à écrire des paroles ou à jouer, à enregistrer ses interprétations. Plus qu'à passer des heures et des heures à éplucher des paperasses et des choses comme ça. Donc, et puis après, les artistes pendant longtemps ont été maintenus dans une certaine ignorance. Hein. On leur a dit « Ah oui, non mais c'est compliqué, t'inquiète pas, fais-moi confiance, je m'occupe de tout ». Et on voit que même des artistes de la taille et de la dimension internationale de gens comme Kanye West ou Taylor Swift, malgré tout, et bien qu'ils aient eu assez rapidement les moyens de s'entourer des conseils et de tout ça, malgré ça, on voit que ces gens-là sont en Bixby. Alors après, ça dépend des artistes. Par exemple, une artiste comme Madonna est connue pour être très dure en affaires et être très très au courant de ces choses-là. Ça varie d'un artiste à l'autre, mais une des bonnes choses qu'on voit justement ces dernières années, c'est que les artistes étant dans une situation qui est de plus en plus précaire et difficile, sans même parler de la pandémie, font que ça, tout ça fait qu'ils s'intéressent un peu plus à ces choses-là. Et alors, la bonne nouvelle que moi j'ai envie de porter, c'est qu'en fait, les règles fondamentales sont assez simples à comprendre. Ce qui rend les choses compliquées, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants. Parce qu'il y a beaucoup de professions différentes, il y a une chaîne d'intermédiaires entre un auteur et son public qui est parfois peut-être très longue, et c'est ça qui rend les choses difficiles à comprendre. Mais les règles de base, elles sont relativement simples. Je me permets d'ajouter une chose en réaction à ce que disait Michel très gentiment de m'offrir un billet pour une consultation, et ça peut concerner tout le monde, parce qu'il faut savoir que, comme vous l'avez gentiment rappelé, je suis titulaire d'un diplôme de droit de la Sorbonne, mais ça ne me donne pas le droit de faire payer pour faire une consultation, c'est-à-dire de donner des conseils. C'est pas parce que j'ai un diplôme de droit que je peux donner des conseils, que je peux rédiger des contrats. Et donc ça, je le dis parce que si dans votre entourage vous avez des gens qui sont un peu dans cette situation, il faut faire attention. Pour ça, il faut un avocat. Parce que si je faisais une consultation comme le proposait Michel et que je me fasse payer pour, ce serait un exercice illégal de la profession d'avocat. Hein. C'est comme si je lui faisais une ordonnance pour des médicaments alors que je ne suis pas médecin. C'est exactement la même chose. Il y a de l'exercice illégal de la médecine. Il faut savoir qu'il y a aussi de l'exercice illégal de la profession d'avocat. Et donc, pour avoir véritablement un conseil, il faut se tourner vers un avocat. Moi, ce que je peux faire, c'est donner des informations.
Voilà, si t'envoies un DM, ça s'arrête quand même, quoi.
Ah, alors oui, tout à fait, tout à fait. Je réponds toujours. Ça peut parfois prendre un peu de temps, mais je réponds toujours. Mais un conseil rémunéré, ça, je ne pourrais pas l'accepter.
Ok. Un petit resto.
C'est ce que j'allais dire, une carte fromage, ça m'irait très
bien. Ou on t'achète facilement, ça c'est bien. Il n'y a pas très vraiment de payer au black, une carte fromage, c'est bon. Pour terminer sur la notion de propriété intellectuelle, de droit, etc. Et après, on parlera plutôt du côté comment on protège son œuvre, peut-être indiquer un peu à ceux qui nous regardent comment ça se passe, comment on dépose une œuvre, etc. Juste avant, justement, et puis on donnera aussi quelques exemples d'industries, parce que là tu as cité Madonna, Kanye West, etc. Je trouve ça très intéressant, mais tout ça, on y reviendra plus tard. Déjà, comment on sépare lorsqu'il y a plusieurs intervenants, justement? Imaginons, moi je suis un beatmaker, il y a un rappeur qui a posé dessus, donc il a écrit le texte. Moi en tant que beatmaker, j'ai composé, mais il y avait aussi un guitariste qui a posé dessus, par exemple une guitare. Tu vois, comment ça se passe quand il y a comme ça de multiples personnes? Comment on divise les rôles? Est-ce qu'on a les mêmes droits sur l'œuvre? Comment ça se passe?
Alors c'est là où on rentre justement dans le diable et dans les détails, ouais. On dit toujours, et c'est là que ça se passe. Alors, les beatmakers, justement, et c'est un peu l'expérience que racontait Michel tout à l'heure, ça pose un problème assez fondamental. Qui est qu'ils ont pris des mauvaises habitudes, justement, de vendre un peu tout, en disant, voilà, je prends le billet, peu importe sa taille, parce que des fois, il est vraiment, il est vraiment ridicule. Si on ramène ça au temps passé, hein, il faut compter en nombre d'heures pour avoir le truc, hein, t'sais, parce que souvent, ça serait plus rentable d'aller faire du babysitting ou de promener des chiens. Donc, le problème du beatmaker, c'est qu'il est fondamentalement un compositeur, au départ. Donc, il est l'auteur, ce qu'on appelle l'auteur au point de vue juridique. Hein, c'est la personne qui est à l'origine de l'œuvre. Donc, lui, il est auteur. Mais il est aussi artiste, dans la mesure où c'est lui qui joue avec ses petits doigts musclés les différents instruments. Et en plus de ça, il est le plus souvent producteur, c'est-à-dire propriétaire de l'enregistrement. Et pas de l'œuvre. L'œuvre appartient à l'auteur. Hein, je peux très bien aujourd'hui enregistrer une chanson de. Bah, on parlait de Madonna tout à l'heure. Si elle a écrit une chanson, je peux moi l'enregistrer. Je deviens propriétaire de cet enregistrement-là si c'est moi qui l'ai financé. Mais je ne suis pas pour autant le propriétaire de la chanson. Le beatmaker, lui, il est à la fois propriétaire de la composition musicale puisque c'est lui qui l'a imaginée. Il est propriétaire de son interprétation puisque c'est lui qui l'a jouée. Et il est propriétaire de son enregistrement, puisque la plupart du temps, c'est lui qui s'est acheté lui-même l'équipement avec lequel il l'enregistre. Donc, au sens juridique du terme, il est propriétaire de cet enregistrement.
Le master, le résultat, il est à lui, quoi. C'est ça.
Voilà, exactement.
Okay. Alors, s'il était passé avec une maison de disques ou un studio d'enregistrement professionnel, enfin, qui a un studio qu'il met à disposition, potentiellement, ça pourrait, par exemple, appartenir à la maison de disques, ce master.
Le master appartient à celui qui a financé les différentes étapes qui ont permis de le réaliser. Mmh. Donc, si c'est un label, si c'est une maison de disques, effectivement, c'est pour ça que c'est leur métier. Hein, ils financent, ils croient en la capacité des artistes de séduire un large public. Donc, ils financent toutes les opérations d'enregistrement pour arriver au meilleur résultat possible, de façon à pouvoir faire une exploitation commerciale. Donc, voilà, le propriétaire du master, c'est celui qui l'a payé. Donc, le beatmaker qui travaille chez lui, bah, c'est lui qui s'est acheté son ordinateur, sa carte son, ses instruments, etc. Donc, il est propriétaire de ça. Après, s'il y a un guitariste qui vient, alors, si on prend la logique des choses, le guitariste, en tant qu'artiste, devrait être salarié, en fait, pour sa prestation.
Tout le régime de l'intermittence, notamment, en gros, c'est...
Oui, tout à fait, ouais. Alors ça, en France, en principe, il doit être salarié. Bon, comme tu le disais tout à l'heure, on voit des cas de figure de plus en plus diversifiés avec des gens qui vont être peut-être en auto-entreprise, donc qui vont être en mesure de faire une facture. Souvent, ça se fait à distance, en plus, avec des personnes qui sont dans d'autres pays où les lois ne sont pas les mêmes et où les habitudes ne sont pas les mêmes. Parce que ce que disait Michel tout à l'heure, c'est les États-Unis connaissent ça depuis très longtemps, ce qu'on appelle du work for hire, ça veut dire du travail à louer, en fait. Donc, on paye un compositeur et effectivement, on devient soi-même propriétaire de tout. Mais en France, les auteurs, les artistes sont plus protégés par la loi qu'ils ne le sont aux États-Unis. Donc, ce qui fait que si on reprend notre guitariste, bah lui, si on le paye, alors lui, il a des droits sur son interprétation. Donc, il ne va pas avoir de droit sur le master. Il n'a pas de droit sur la chanson, sur le morceau sur lequel il joue, puisque ce n'est pas lui qui l'a composé. Et puis, alors après, là, tout est possible. Parce que peut-être que le guitariste a apporté quelque chose d'essentiel au morceau et qu'il l'a transformé avec ses parties de guitare. Donc là, j'ai envie de dire, c'est du bon vouloir. Parce que tous les métiers de la musique restent profondément humains. Ce qui compte, c'est de se parler et de se parler le plus clairement possible et de ne pas hésiter à aborder les questions de combien tu veux et de quel pourcentage. Alors, parce que pendant longtemps, il y avait une espèce de tabou sur ces choses-là. Là, maintenant, c'est en train de passer. Donc, on peut très bien imaginer, soit on va considérer que le guitariste a participé à la composition musicale. Donc, il peut devenir co-compositeur de l'œuvre si l'auteur d'origine estime que sa contribution a été exceptionnelle. Il se peut que le guitariste lui-même le réclame parce que peut-être qu'il a fait un petit riff sur le refrain qui va faire que c'est ça qui va marquer l'esprit du public, même si ça dure 4 mesures. Et quelque part, ça mérite une part du gâteau. Donc, il peut y avoir ça, mais la situation de base, c'est qu'il est payé pour faire sa guitare, mais il a quand même des droits sur son interprétation. Donc, ils font partie des droits voisins dont on pourra parler plus en détail après.
Donc, en gros, pour résumer, tu as le droit de l'auteur, donc vraiment celui qui a écrit, qui a composé, et ensuite tu as ce qu'on appelle les droits voisins qui regroupent tout un tas de personnes autour qui peuvent être soit un interprète, qui peuvent être un producteur, donc celui qui appartient les masters, etc. C'est bien ça si je résume pour le moment.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les droits de l'auteur, comme tu l'as très bien dit, et de l'autre côté ce qu'on appelle les droits voisins. On appelle ça voisins parce qu'on considère que c'est des gens qui habitent à côté de chez l'auteur. C'est ses voisins.
L'auteur est vraiment central dans le droit français, en gros. Donc, c'est
oui, voilà. Et donc, c'est ses voisins, et ses voisins dans la musique, ils sont deux, c'est les artistes interprètes, qui sont donc eux propriétaires de leur interprétation, et donc ils vont vendre le droit, parce que c'est toujours une autorisation qu'on donne quand on fait une cession de droit, donc l'auteur, lui, il va donner son autorisation pour qu'on utilise sa chanson, l'interprète, il va la vendre, mais donner au sens juridique, il va transférer la propriété de l'artiste interprète, lui, il va donner l'autorisation d'utiliser son interprétation dont il reste propriétaire, et le producteur, lui, va être propriétaire de ce qu'on appelle le phonogramme, qui est un objet juridique, c'est pas un objet physique, donc c'est le master, le morceau enregistré, quelle que soit la technique d'enregistrement utilisée, ce master, le producteur est propriétaire de ça, et lui aussi, comme l'artiste interprète, a des droits voisins sur cet enregistrement-là.
Ok, super, c'est très clair. Michel, toi, quand tu collabores avec des artistes, avec d'autres gens, comment tu gères ça? Je sais pas, par exemple, t'as fait un morceau avec Pendrez. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que...
On est des branleurs à fond, mon gars. On fait rien du tout. Genre, nous, on a fait ça avec Pendrez comme je fais avec les autres. Tu vois, par exemple, je fais des formats avec les abonnés où je leur dis, en gros, des projets que vous terminez pas, des chutes, machin, vous m'envoyez des multipistes. Moi, je les remixe et tout. Et puis, on repasse dessus. Et l'idée, c'est un peu de s'inspirer mutuellement et de chacun proposer des trucs. Là, pour l'instant, les collabs qu'on fait, je travaille via DistroKid, je poste sur DistroKid, il y a un truc pour répartir les revenus, et moi, je mets ceux qui font avec moi, on partage de manière équitable, et voilà, quand je fais avec des sons avec Pèlerine, on se met à 50-50, quand je fais le son avec les abonnés, on se met à 50-50, parce que, encore une fois, je pense... On se paye un peu le luxe, on sait que on y perd, mais on se paye le luxe de pas se casser la tête sur ce truc-là, sachant que on n'est pas à l'abri qu'un morceau pète et tout, mais tu vois, genre moi je tape du 20 maximum 50K écoutes sur Spotify, tu vois, ça veut dire ça fait un billet de 100 balles à la fin.
Mais déjà c'est intéressant, ça veut dire que là c'est le distributeur en l'occurrence, donc DistroKid, donc la plateforme qui va mettre ensuite en ligne sur les plateformes de streaming, etc., donc le distributeur qui offre une option de répartition lorsque plusieurs personnes ont collaboré sur le morceau, c'est ça, et tu choisis des pourcentages.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok. Patrice, justement, réagis à ça. Enfin, comment? Parce qu'on a dit, il y a plusieurs intervenants. J'ai bien compris. Il y a les droits voisins, il y a le droit d'auteur. Tout le monde n'a pas exactement le même droit parce que les droits voisins, c'est pas exactement pareil que le droit d'auteur. Justement. Comment ensuite on se divise l'argent? Est-ce que la loi dit quelque chose? Dit l'interprète, il prend tel pourcentage. Est-ce que c'est on s'arrange entre nous? Est-ce que aussi sur le droit moral? Est-ce que juste l'interprète peut dire aussi « Ah, j'aime pas comment utilise le morceau ?» Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites questions. Désolé, j'étais un peu
justement
submergé.
Parce que ça peut... Une chose très importante, que ce soit DistroKid ou un autre distributeur numérique, et effectivement, il y en a plein qui offrent la possibilité de répartir l'argent qui est issu du streaming. Mais cet argent-là, c'est pas des droits. En fait, c'est ça qu'il faut... Cet argent-là, c'est des ventes. Un stream, il faut s'imaginer quand on stream un titre sur une plateforme... C'est exactement la même chose que si on va chez le disquaire et qu'on achète le disque. C'est la même logique qui est derrière, c'est-à-dire c'est une vente. Ouais. C'est considéré comme ça. C'est une habitude qui a été prise au début, parce qu'au début, les gros acteurs, les majors, c'est elles qui avaient la possibilité d'imposer leurs règles vis-à-vis des plateformes de streaming. C'était quelque chose de tout nouveau. La loi a toujours du retard sur la pratique et sur les habitudes qui se prennent. Et donc, l'habitude qui s'est prise, c'est de considérer qu'un stream, c'est comme une vente. Donc, ce qui fait que quand... Sur DistroKid, vous répartissez entre vous, celui-là il va avoir 25, lui 25 et moi 50, ça bah, c'est la même chose que si vous vous répartissiez la vente d'un vinyle ou la vente d'un CD, le montant de la vente. Ça ne concerne pas les droits qui, eux, pour ce qui est du droit d'auteur, les plateformes, et ça, c'est pas du ressort de DistroKid, ça va être les plateformes type Spotify, Deezer, etc. Eux ont des arrangements en direct avec la SACEM et reversent sur leur chiffre d'affaires un pourcentage qui n'est pas connu parce que ces accords-là sont assez discrets, pour ne pas dire secrets, mais ils reversent un pourcentage de leur chiffre d'affaires à la SACEM et aux organismes équivalents. En France, c'est la SACEM, mais il y a l'équivalent dans chaque pays.
Juste explique-nous rapidement, la SACEM, c'est quoi ?
Alors, la SACEM, comme son nom l'indique...
Quelques phrases, ouais.
Quelques phrases. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c'est une société... En fait, ce sont les auteurs, donc les compositeurs et les paroliers, et les éditeurs de musique, qui s'associent entre eux, ils font société, pour collectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça une société, un organisme de gestion collective, c'est-à-dire les auteurs s'associent pour collectivement gérer leurs droits. Donc c'est une société qui est à but non lucratif, ils prélèvent une partie des droits qu'ils reversent parce que, pour assurer leur fonctionnement interne, mais ils n'ont pas vocation à faire du profit. Et leur mission, il y en a deux, c'est d'un côté la collecte des droits auprès de ceux qu'on appelle les utilisateurs de musique, c'est-à-dire
c'est un peu les diffuseurs, en fait, en gros, non ?
Voilà, ça va être les diffuseurs, les radios, les organisateurs de concerts, et même un magasin, un commerce, quand on va chez le coiffeur, ce qui n'est pas trop mon cas manifestement, mais et qu'il y a de la musique, ou dans un parking, ou dans un restaurant, tous ces gens-là sont des utilisateurs de musique, donc la SACEM collecte auprès d'eux une certaine somme d'argent. Si la musique est essentielle à l'activité de l'utilisateur en question, par exemple une discothèque, à ce moment-là, la SACEM va demander un pourcentage sur le chiffre d'affaires, parce que s'il n'y avait pas de musique, il n'y aurait personne dans la discothèque, donc voilà. Alors que si la musique n'est pas essentielle à l'activité, par exemple une boutique de fringues, à ce moment-là, ça va être une somme forfaitaire. Cette somme d'argent, et Spotify, c'est par exemple, je pense Spotify ou Deezer ou d'autres, pour eux, la musique est essentielle à leur activité, donc ils payent un pourcentage de leur chiffre d'affaires à la SACEM pour avoir le droit de diffuser n'importe quel titre du catalogue de la SACEM. Donc ça c'est le principe, voilà à quoi elle sert, et donc ça c'est sa première mission, collecte auprès des utilisateurs, et deuxième mission, bien évidemment, répartition auprès des auteurs, des éditeurs, des compositeurs. Et donc, il y a tout un tas d'outils qui permettent de mesurer, de savoir qui ont été les plus... Quelles sont les œuvres qui ont été les plus utilisées. Et celles qui ont été les plus utilisées, c'est celles qui ramènent le plus de sous, et ainsi de suite. Donc, c'est le rôle d'un organisme de gestion collective.
C'est intéressant. Moi, je ne maîtrisais pas ça bien. C'est qu'il y a d'un côté la vente, mais qui est indépendante de la question des droits d'auteur. Et en parallèle, la diffusion... Effectivement, l'exploitation par les utilisateurs dont tu parlais, et ça, c'est géré par la SACEM. Et en fait, c'est deux types de revenus qu'un artiste peut cumuler, par exemple. Donc, c'est important, pas seulement de... En tout cas, quand... Par exemple, Michel, est-ce qu'il y a un équivalent belgique de la SACEM ou
Ça s'appelle la SABAM.
Okay. Ouais. Est-ce que tu es inscrit, toi, auprès de la SABAM ?
Bien sûr.
Ok, parce que il suffit donc pas. On pourrait donner comme conseil, si je comprends bien, hein, Patrice, tu me dis, mais un producteur home studio qui met ses morceaux quand même sur Spotify de son côté avec un truc du type DistroKid, ça peut être d'autres, peu importe. Souvent, il va avoir le réflexe donc de passer par le distributeur digital pour avoir sa musique sur les plateformes. S'il génère un peu de fric, il va le récupérer avec son distributeur digital. Mais ce que tu nous dis, c'est que si il s'inscrivait en parallèle à SACEM, il pourrait aussi potentiellement prendre un petit peu.
Ah bah oui, après ça va être en fonction du nombre de streams.
Bien sûr, là bien c'est. Sûr. Mais ce que je veux dire, c'est principe... que c'est un réflexe à avoir plutôt aussi de s'inscrire. Pas seulement se dire ok, je mets en streaming, mais il faut s'inscrire aussi en parallèle à la SACEM.
Ah oui,
quoi.
Et alors en plus, la SACEM et les autres, la SABAM et puis dans tous les pays, c'est le même problème, sont inondés par la quantité d'informations qu'il aurait délivrées chaque jour. Chaque plateforme de streaming verse chaque jour à peu près 1 téraoctet de données à la SACEM. Donc évidemment, pour eux, c'est très compliqué à gérer. Ils sont en train de prendre les mesures qu'il faut, mais ça prend du temps. Mais si on reprend notre histoire de beatmaker tout à l'heure, qui était à la fois le compositeur, l'artiste et le producteur. En fait, quand il met son son sur une plateforme, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il agit en tant que producteur. Il met un enregistrement fini. Donc, en tant que producteur, il va avoir, en fonction du nombre de streams, il va toucher une somme d'argent qui correspond, comme on le disait, aux ventes. Le stream étant une vente. Mais à côté de ça, évidemment, il est très important qu'avant même d'avoir mis son son sur les plateformes, il l'ait déposé et soit fait connaître de la part d'un organisme de gestion collective, SACEM, SABAM et compagnie, puisque à ce moment-là, ce n'est pas le producteur qui va toucher de l'argent, c'est l'auteur, le compositeur de la musique. Alors, il se trouve que c'est la même personne. C'est ça qui est un peu difficile à comprendre. C'est la même personne, mais c'est deux revenus financiers différents. Et je tiens à attirer votre attention sur une chose, c'est que, comme je disais, la SACEM est noyée par la quantité d'informations qu'il y a maintenant. Ce qui fait qu'il faut absolument déposer son œuvre à la SACEM au plus tard un an après l'avoir, alors ce qu'on appelle communiqué au public, c'est-à-dire l'avoir mis sur une plateforme, sur YouTube, sur SoundCloud, n'importe où, parce que après, sinon, elle refusera de payer, traiter, en fait, et de le prendre en considération, parce que là, il y a vraiment, il y a trop de musique, enfin trop. C'est ça, c'est, il y en a jamais trop de la musique, mais en tout cas, ils ont énormément d'informations à gérer. Alors c'était, ça existait déjà hein, cette limite, mais avant, ils la mettaient pas en œuvre parce que bon, bah ça allait bien. Sauf que là, maintenant, depuis quelques mois, ils ont dit attention, quand vous mettez votre son sur Internet. Quelle que soit la méthode, vous le communiquez au public. Là, vous avez un an. Si au bout d'un an, vous ne l'avez toujours pas déposé à la SACEM, venez pas réclamer de l'argent parce que c'est trop tard, les gars.
Et dis-moi, autre point, c'est est-ce que ce que va verser la SACEM à l'interprète, c'est la même chose qu'à l'auteur? Est-ce qu'il y a un pourcentage est-ce que c'est défini à l'avance qu'on va dire, par exemple, bah, l'auteur, forcément, il a un peu plus que l'interprète. Quant au producteur, lui, il a tel pourcentage. Est-ce que c'est un arrangement entre eux?
Alors... là, on va prendre l'exemple d'un disque physique. À la limite, c'est plus simple à comprendre, mais ça s'applique exactement de la même manière au streaming. Okay. L'artiste, lui, n'est pas connu de la SACEM. Tout à l'heure, je disais, c'est très important de séparer l'auteur, c'est-à-dire la personne qui vraiment a l'idée de l'œuvre, de l'artiste qui est celui qui l'a fait connaître au public en la représentant sur scène ou en l'enregistrant au studio. L'artiste, lui, il n'est pas connu de la SACEM parce que c'est pas lui qui a écrit la chanson. Donc, l'artiste vient pas là. L'auteur, lui, il va mettre son morceau à la SACEM. Et ce qui se passe quand il met son morceau à la SACEM, je disais tout à l'heure qu'être un auteur, c'est donner une autorisation, c'est pouvoir autoriser ou interdire telle ou telle utilisation. Quand on amène son morceau à la SACEM, puisque les droits sont gérés collectivement, comme on l'a dit à l'instant, ça veut dire que l'auteur perd. En fait, il transmet à la SACEM ce droit d'autoriser ou d'interdire. C'est la SACEM qui va exercer ce droit pour son compte et dans son intérêt. Donc, c'est la SACEM qui va accorder l'accès à sa chanson. Ça, c'est l'auteur. Donc, lui, une fois qu'il a posé son morceau à la SACEM, j'ai envie de dire, c'est la SACEM qui s'occupe de tout. Il n'a plus à s'occuper de rien. Éventuellement lui signaler s'il a oublié un truc, mais ça s'arrête là. Ouais, non, mais il peut y avoir, je sais pas, par exemple, un morceau a été énormément streamé ou utilisé en Australie, ou il a été pris en Australie pour une pub, ou pour il a été diffusé énormément à la télé, ou pour un feuilleton, mais qui est sorti qu'en Australie. Alors il y a eu des tonnes de diffusion, et puis d'un seul coup, au bout de 2 ans, on les voit pas apparaître sur son relevé SACEM. Donc là, on peut leur dire, eh, les gars, vous avez peut-être oublié ce truc-là. Mais c'est bon, c'est des cas, c'est l'exception plus que la règle. Mais on met son morceau à la SACEM et on n'y pense plus, ça c'est fait. Ensuite arrive l'artiste. L'artiste, lui, il a besoin, alors soit il se produit lui-même, c'est-à-dire qu'il utilise son propre matériel ou il finance son propre enregistrement, ce qu'on appelle un artiste autoproduit. Donc à ce moment-là, il est aussi producteur, mais sinon le cas le plus fréquent, c'est que l'artiste est salarié par le producteur. Donc l'artiste, lui, il n'est pas propriétaire de la chanson qu'il interprète, mais il est propriétaire de son interprétation, c'est-à-dire de sa manière de l'interpréter. Mmh. Et ça, même si on lui donne des directions très précises, même si pour un musicien, on lui met une partition sous le nez, on lui dit « tu me joues ces notes-là et pas une autre », eh ben, on considère que sa manière de le jouer n'appartient qu'à lui et qu'on aurait pu prendre un autre musicien qui aurait été aussi bien, qui aurait respecté les mêmes directives, qui aurait respecté la même partition, mais sa manière d'interpréter aurait été quand même différente. Donc, l'artiste, il a des droits depuis 1985, c'est les lois, c'est à Jacques Lang qu'on doit ça, l'artiste a des droits sur son interprétation. Et donc, ces droits-là, il va les vendre au producteur, celui qui finance, qui emploie l'artiste, c'est son patron, c'est son employeur, il va lui vendre ce droit. Et quand c'est l'artiste principal, celui qui va avoir son nom sur le disque ou sur son nom en gros sur les affiches des concerts, ça c'est l'artiste principal, en échange de cette vente de ses droits d'utiliser son interprétation, il va avoir des points sur les ventes, ce qu'on appelle des redevances ou des royautés ou des royalties. C'est ça que vous partagez sur DistroKid, en fait, c'est ces royautés-là. Donc ça vient en partie, ça se partage entre l'artiste ou les artistes, s'il y en a plusieurs, voire même, pourquoi pas, le mixeur. On peut très bien, à un moment donné, solliciter un mixeur hyper réputé, et puis on n'a pas tout à fait les moyens de le payer l'argent qu'il voudrait, et on peut négocier un truc et lui dire, mais on te donne quelques points, ou un réalisateur artistique, c'est la même chose, on lui donne quelques points, donc un pourcentage, une partie de l'exploitation commerciale. Mais tout ça, l'auteur, lui, il n'est pas du tout concerné, il est dans son coin, son morceau est à la SACEM, lui, à la limite, il a intérêt qu'il y ait un maximum de gens qui chantent son morceau, ou qui reprennent sa chanson, ou qui reprennent ses paroles. Voilà, plus il y en aura, plus il a de chance qu'il y en ait un dans le lot qui cartonne et qui gagne sa vie avec. Il faut bien séparer ces choses-là.
Si je comprends bien, les droits voisins, donc quand ça ne concerne pas l'auteur de l'œuvre, les droits voisins, c'est surtout sur les ventes en fait que va se faire la rémunération, en gros, enfin que ça va assurer un revenu à...
Alors,
non.
Ça c'est un truc, oui, en gros, c'est lié à la fois aux ventes et puis à la fois à l'exploitation, c'est-à-dire qu'à l'utilisation qui est faite de l'enregistrement. C'est-à-dire que quand on diffuse un enregistrement, que ce soit à la télé, à la radio ou sur une plateforme de streaming, on diffuse en fait deux choses. On diffuse une œuvre qui appartient à l'auteur et on diffuse un enregistrement particulier de cette œuvre. Il peut y avoir des dizaines de versions différentes d'une même chanson. C'est là-dessus, il va y avoir les droits et les droits, alors ça c'est un peu tricky, quand on fait un enregistrement, on le fait pour une certaine raison. Quand on enregistre de la musique, la plupart du temps, pour nous, ça va être ce qu'on appelle un phonogramme du commerce. C'est-à-dire, tout ce qu'on veut faire, c'est vendre cet enregistrement, soit sous forme de support, CD, vinyle, soit sous forme de streaming, mais ce qui revient au même. Donc, on va vendre l'enregistrement, on estime que le public va être intéressé à écouter cette musique-là et éventuellement à acheter un support pour l'écouter ou à s'abonner à une plateforme pour l'écouter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation principale. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les utilisations secondaires, c'est-à-dire celles qu'on n'avait pas prévues au départ. On a fait un morceau pour le diffuser sur les plateformes de streaming, pour qu'il passe à la radio et à la télé, très bien. Il y a une agence de publicité qui nous contacte en disant « Écoutez, votre morceau, il est super, on aimerait bien pouvoir l'utiliser pour notre pub, pour tel produit. » Et ça, c'est ce qu'on appelle les utilisations secondaires. C'est celles qu'on n'avait pas prévues au départ. Donc, les droits des producteurs et des artistes interprètes, ils vont être effectivement, comme tu le disais, d'une part sur les ventes, qui sont l'utilisation principale, et d'autre part sur toutes ces utilisations secondaires, qu'on appelle aussi les utilisations dérivées.
Les utilisations secondaires, c'est qui va se charger de récupérer l'argent et ensuite le distribuer aux interprètes?
Alors là encore, il y a des organismes de gestion collective qui sont, eux, des spécialisés qui s'occupent des droits voisins et pas des droits d'auteur. Il y en a pour les artistes interprètes. En France, il y en a deux qui sont l'ADAMI, qui regroupe principalement les artistes interprètes nommés, donc ceux qui ont leur nom, l'artiste interprète principal, et la Spedidam qui, elle, s'occupe des artistes interprètes non nommés, c'est-à-dire le plus souvent les musiciens d'accompagnement, le guitariste qu'on va faire venir sur une séance, etc. Il a aussi des droits, alors évidemment, il touche moins, et lui, il ne va pas toucher de pourcentage sur les ventes, généralement, parce que ça ne se fait pas, il est salarié pour son truc, et en même temps que son salaire pour sa prestation de guitariste au studio, ou de batteur, ou de quoi, il touche son contrat de travail vaut aussi cession de ses droits pour la première utilisation, c'est-à-dire le phonogramme du commerce, par exemple. Et ensuite, lui, il va retoucher en plus, il va avoir que cette somme forfaitaire-là, et en plus, éventuellement, il va toucher, si, comme je le disais, un jour, le morceau sur lequel il a joué de la guitare est utilisé dans une pub, là, quand la pub va être diffusée à la télévision, il va, à ce moment-là, retoucher un peu plus. Donc ça, c'est la Spedidam, ADAMI et Spedidam pour les artistes interprètes, et pour les producteurs, qui ont aussi des droits, il y en a deux, qui sont la SCPP, la société civile des producteurs phonographiques qui, elle, comprend les majors, c'est la principale, et une autre qui est la SPPF, qui a plutôt les indépendants, qui depuis quelques mois, quelques années maintenant, commence à s'ouvrir aussi aux artistes totalement indépendants, parce qu'au départ, ça, c'est des regroupements de labels, en fait. Et la SPPF commence à s'ouvrir aux artistes indépendants. Ils font plein de choses bien. Ils ont des actions de formation aussi qui sont intéressantes. Ça vaut le coup d'aller voir leur site et puis de voir ce qu'ils proposent. Il y a énormément d'informations qui sont disponibles là-bas.
Ouais. quel... C'est un bordel un peu tout ça quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça demande de... D'ailleurs, c'est un truc qu'on dit souvent dans le podcast, c'est que notamment en tant qu'indépendant aujourd'hui, quand t'as pas d'accompagnement d'une major ou un truc comme ça, ça demande un nombre de compétences variées et pas seulement d'être un artiste justement, pas seulement d'être un bon chanteur, un bon compositeur ou je ne sais quoi. Et ça, c'est une compétence qui est pas évidente, je trouve, à maîtriser. Déjà, on sait même pas forcément qui est le bon interlocuteur pour nous renseigner sur ces questions. Et moi, tu vois, là, j'arrive à peu près à te suivre, mais sur certains trucs, ça commence à... Sur les derniers trucs, ça commençait un peu à être tricky. Je sais pas ce que t'en penses, Michel, mais faut suivre tout
ça,
quoi.
Ça commence à devenir un petit peu tendu, quoi.
Ça commence à devenir un petit peu tendu.
Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est super intéressant. Ouais.
Bah, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, les règles, parce que les règles qui s'appliquent, que ce soit à la SACEM pour les auteurs, que ce soit à la DAMI ou à la SPEDIDAM pour les artistes, ou que ce soit à la SCPP, SPPF pour les producteurs, les règles sont les mêmes. Donc une fois qu'on a compris pour un cas, on a compris pour tout. Mais après, ce qui rend les choses, ça finit par faire mal à la tête, c'est comme tu l'as dit, hein, la multiplicité des intervenants, des acteurs. Alors ça s'expliquait pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, parce que c'était un tout petit monde de gens qui se connaissaient tous. Il y avait très peu d'artistes qui avaient accès au public, en fait, parce qu'il fallait avoir accès aux médias. Mais pour avoir accès aux médias, il fallait avoir un producteur qui finance des enregistrements qui coûtaient très cher, parce qu'un studio, ça coûtait plus cher qu'une maison. Aujourd'hui, on peut s'enregistrer pour le prix d'un four à micro-ondes. Du coup, tout le monde y a accès et tout le monde se retrouve dans cette situation qui était au départ un ensemble de spécialistes, en fait. Et c'est vrai que d'un seul coup, ça fait beaucoup d'informations. On a l'impression que c'est très compliqué, mais c'est une impression. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. C'est comme une console. Quand on va dans un studio et qu'on voit ces énormes consoles, les SSL ou les NIV, et puis les gens qui viennent dans le studio pour la première fois, ils disent « Oh là là, mais c'est plus compliqué qu'un avion, mais comment tu fais pour te retrouver dans tous ces boutons ?» Et sauf qu'en fait, non. À partir du moment où on a compris une tranche, comment ça marche avec le gain d'entrée, l'égaliseur, le compresseur, le fader, le panoramique, terminé. Après, qu'il y en ait une, qu'il y en ait 8 ou qu'il y en ait 96, c'est la même histoire. Et là, c'est la même chose.
Ce que je vous propose, c'est que on est déjà un peu rentré dans cette deuxième partie, mais qu'on la continue sur d'un aspect beaucoup plus pratique sur la protection de son œuvre. C'est-à-dire qu'on a commencé par établir les bases un peu de la protection intellectuelle, comment ça fonctionne, etc. Qu'est-ce que c'est que les droits voisins, les droits d'auteur et compagnie. Et là, on commençait à rentrer de plus en plus dans la question de la protection de son œuvre. Je suis musicien, comment je m'assure que mon œuvre a un statut légal, comment je la protège, etc. Toi, Michel, est-ce que c'est un truc que tu fais? Est-ce que tu t'es renseigné là-dessus? Est-ce qu'à chaque fois, tu déposes ton œuvre? Il me semble que c'est le terme qu'on utilise. Comment ça se passe?
Je ne sais pas.
Tu sais pas. Ouais, c'est dingue.
Tu sais pas ce que tu fais?
C'est pas du tout le sens, dans ce sens-là que je dis, mais ça montre bien la réalité de beaucoup de musiciens, c'est que... on est paumés, en fait. Enfin,
beaucoup de musiciens, moi j'en sais rien, je représente pas tout le monde, je suis clairement un branleur de base, tu vois. dans mon cas, je gigote et je me renseigne pas assez sur ces questions-là aussi, parce que encore une fois, c'est un peu un luxe que je me paye, quoi. C'est genre, je sais que j'y perds, mais en même temps, j'ai la flemme, quoi, tu vois.
Si demain quelqu'un, je vous pose la question à tous les deux, si demain quelqu'un prend un morceau de Michel qui est dispo sur Spotify et le réutilise, le diffuse en dehors donc de la plateforme de streaming, hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Michel il aura dû faire un truc pour éviter ça? Est-ce que même s'il a rien fait, il peut éviter ça? Tu sais, toi Michel par exemple, tu ferais un truc si demain on utilisait ta musique?
Pourquoi?
Bah, je sais pas, un type, je sais pas, soit il l'upload par exemple sur sa propre chaîne YouTube et il monétise ça, soit, tu vois plein d'exemples, mais une utilisation un peu frauduleuse entre guillemets, tu vois,
ouais,
il réutilise
ton truc. Ouais, mais ça dépend du billet,
Non, mais
si
justement,
un vrai billet à se faire,
pas.
J'y vais.
Il te contacte pas, il le fait.
Ouais.
Fasse son truc accompli. Tu sais toi ce que tu dois faire ou pas? Est-ce que tu sais qui contacter?
Non,
pour
je
dire,
sais
ah
pas
non.
ce que je. Ah, je sais pas ouais. ce que je dois faire hormis aller voir quelqu'un qui saura ce que je peux ou ce que je peux pas faire. Mais je pense que je suis baisé, tu vois.
Patrice, dis-nous.
Pas forcément.
Aide-nous.
Après, j'ai envie de dire, la question clé là-dedans, c'est justement la question de la taille du billet. C'est-à-dire que si quelqu'un, comme tu le disais, Salman, a pris un morceau et puis l'a mis sur sa chaîne YouTube, qui est monétisée, ouais. Là, évidemment, il y a des recours déjà auprès de YouTube. Alors eux, ils ont ce fameux système Content ID, mais pour avoir accès à ça, faut être une majeure ou quasiment une majeure. Ouais. Donc évidemment, on n'est pas dans ce cas de figure.
Juste
mais
pour rappel,
il y a quand même.
Content ID, c'est un algorithme en gros qui repère à partir du catalogue des majors, ah, tel morceau est enregistré, il appartient à telle personne, donc on l'enlève de votre vidéo, vous n'avez pas le droit de l'utiliser en gros. Voilà.
Oui, mais ce qu'il faut savoir sur Content ID, c'est qu'il est utilisé manuellement. C'est-à-dire, par exemple, chez Universal, on l'a su il y a pas longtemps parce que il y a eu des témoignages devant le Congrès américain qui se posait ces questions-là. Il y a 60 personnes chez Universal qui salariées pour être toute la journée devant les grosses chaînes YouTube, celles qui ont des millions d'abonnés, qui surveillent toutes les vidéos qui sortent. Et quand la vidéo utilise ne serait-ce que quelques secondes de quelque chose, eux ont la possibilité de manuellement déclencher l'algorithme et de supprimer la monétisation, enfin de récupérer en tout cas 66% de la monétisation de la chaîne. Bon, évidemment, pour un particulier, c'est plus, ou même un label indépendant, c'est plus compliqué que ça, mais il y a quand même des voies de recours. Mais après, ce que j'ai envie de dire, l'élément clé, parce qu'on est malgré tout dans un domaine culturel, donc quelque part, c'est fait pour être distribué et diffusé, cette chose-là. Ça dépend de combien il y a à se faire. C'est-à-dire, est-ce que, oui, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler un avocat, déjà, je vais lui dire bonjour, ça va me coûter 250. Est-ce que... non, j'exagère. Généralement, la première consultation pour voir s'il est pertinent de faire quelque chose ou pas, ça, les avocats, la plupart du temps, ne vont pas le faire payer. Et puis, ils vont le faire payer, effectivement, à partir du moment où ils disent, oui, ça vaut le coup de faire quelque chose, on va le faire, et puis là, ils enclenchent le compteur. Mais c'est vrai que c'est toujours prudent, des fois, d'appeler un avocat, de poser les questions, parce que ça, la première fois, il va évaluer le truc, et puis voilà. Mais la question fondamentale, c'est combien il y a à gagner ? Est-ce que si effectivement quelqu'un pique le morceau de Michel, il le met sur sa chaîne YouTube et puis au bout de 3 semaines, il a 4 milliards de vues ? Là, oui, clairement, ça vaudra le coup de faire quelque chose. Oui. Mais s'il en a 73, j'ai envie de dire...
Moi, en dessous de 1500 balles, je fais rien, quoi. C'est mon palier.
Voilà, c'est ça qu'il faut.
On peut te gratter 500 balles déjà. Attention, tu me tentes là.
Allez, vas-y, Salman. Moi, il faut que mes prolos mangent. Hein.
Je sais pas comment je vais prendre ça.
Ça dépend aussi du profil, tu vois. Si je vois que c'est Universal, franchement, Universal, ça me casse les couilles, tu vois, quand ils viennent te gratter un billet alors qu'ils font des milliards et que toi, t'as utilisé 5 secondes dans une vidéo, ça casse les couilles, tu vois. Après, si un type, il prend un de mes morceaux. Vas-y, lui, il se fait 500 balles dessus et lui, tu vois, genre, il fait 1002 par mois. Ben, vas-y, mon frérot, régale-toi, tu vois ce que je veux dire?
Mais ce que j'ai envie de dire, la première chose, après, on est toujours dans des questions humaines. Je pense que la première chose à faire quand on constate quelque chose comme ça, parce que ça peut arriver, c'est d'essayer de joindre la personne. De commencer par là, d'un petit mail gentil, bonjour, j'ai vu que tu avais utilisé ma musique, ça me fait super plaisir qu'elle t'ait plu, que tu aies eu envie de l'utiliser, machin, patati patata, je vois que tu as fait tant de vues sur le truc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on s'arrange?
Ouais.
On commence par là, gentil. Et puis après, évidemment, si le ton monte, le ton monte, mais... c'est la première chose à faire, elle est celle-là, à mon avis.
Et alors, Patrice, dans le cas du morceau, par exemple, de Michel sur Spotify, on va partir du principe qu'il l'a déposé auprès de, je ne me rappelle plus comme tu disais en Belgique, comment ça s'appelle, enfin l'équivalent de la SACEM, en gros, etc. Imaginons, moi, demain, j'ai juste un petit SoundCloud, j'ai uploadé depuis mon ordinateur directement, il y a zéro intermédiaire, pas de distributeur, je ne suis pas inscrit à la SACEM, etc. J'ai fait ce morceau, quelqu'un le télécharge, le monétise sur une autre plateforme et gagne de l'argent avec. Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Ou est-ce que ça m'appartient pas parce que je l'ai pas déclaré, par exemple, à la SACEM, je suis pas passé par un distributeur, etc.
Alors, là encore, il faut séparer le droit d'auteur du droit voisin. L'auteur, si tu l'as pas déclaré, goodbye. Tu l'as pas déclaré. Donc, à ce moment-là, la SACEM ou équivalent ne te connaît pas, ne sait pas que tu es le propriétaire de cette œuvre-là. Ils vont peut-être encaisser de l'argent de la part de la plateforme qui va le diffuser, ou même si ça passe à la télévision ou sur une grande radio nationale, eux, ils vont toucher l'argent, puis ils vont voir qu'ils ne savent pas à qui le donner. Donc, puisqu'ils ne savent pas à qui le donner, ils vont le mettre dans une espèce de pot commun qu'on appelle parfois les irrépartissables, c'est on ne sait pas à qui les répartir. Ça va partir. En fait, cet argent-là, il va aller à ceux qui auront le plus touché déjà cette année-là. Parce qu'il y a une espèce de calcul qui est fait, on considère que ceux qui, quand on ne sait pas, on va le donner en proportion de ceux qui ont le plus touché. Et ils vont avoir un peu plus. Donc c'est, bah, ouais. Il faut bien donner l'argent à quelqu'un, donc à un moment donné, si on ne sait pas à qui le donner, ils sont censés le garder pendant 5 ans avant de faire ça, mais bon. Donc ça c'est pour l'auteur. Et puis après il y a le titulaire des droits voisins, le producteur que tu es, puisque tu as financé ton enregistrement, que tu as mis sur SoundCloud, lui éventuellement c'est lui, il peut râler là-dessus, il peut négocier un truc, vous avez utilisé un enregistrement qui est à moi. Je peux prouver. Alors après, très important, tu me demandais tout à l'heure sur la protection, quand est-ce qu'elle commence? La protection des œuvres, alors pour l'auteur, la protection des œuvres de l'esprit, elle commence dès la création. C'est-à-dire le simple fait, il n'y a pas de démarche particulière à faire pour qu'une chanson soit protégée par la loi. Mais il faut quand même pouvoir prouver son existence, c'est-à-dire il faut qu'elle ait une forme perceptible par les sens. Il faut que quelqu'un d'autre que toi, si tu as la plus belle chanson du monde dans ta tête, tant qu'elle est que dans ta tête, elle n'est pas protégée. Mais à partir du moment où elle a pris une forme suffisante pour que quelqu'un d'autre que toi puisse l'entendre et voir comment elle est belle, à ce moment-là, ça peut être protégé, mais il faut pouvoir prouver la date à laquelle elle a été mise en forme, justement. Donc ça, évidemment, le moyen le plus simple, c'est le dépôt à la SACEM, parce qu'on fait tout d'un coup, mais des fois, c'est où le morceau n'est pas encore fini, la composition n'est pas terminée, donc on ne veut pas le déposer tout de suite, on sait qu'on n'a pas fini, mais on veut quand même le protéger parce qu'on est dans une phase de business où on va le faire écouter à plein de gens et on a un petit peu peur et on sait qu'on ne l'a pas protégé. À ce moment-là, le plus simple, c'est de graver ça sur un CD. Je dis vraiment un CD, alors c'est une technologie en train de disparaître, mais c'est plus pratique. Une clé USB, ça peut s'effacer. Faut prendre un CD, pas un réinscriptible, un support ineffaçable, et par exemple se l'envoyer en recommandé à soi-même, et évidemment pas ouvrir l'enveloppe quand elle arrive. Et donc ça fait une preuve, puisque le cachet de la poste fera foi, donc on peut dire, regardez, moi en 2021 j'avais déjà fait ce truc là donc ça c'est pour la protection de l'auteur. Donc c'est à partir du moment où ça a pris une forme suffisante. Et puis pour la protection du producteur, de l'enregistrement, ça c'est à partir du moment où ça a été communiqué au public.
D'accord. Donc le fait de l'avoir uploadé, dans mon cas, sur SoundCloud, c'est
voilà,
bon.
C'est une communication au public. Okay. À partir de là, alors il y a cette antériorité, c'est-à-dire qu'on a la date. Ce qui a l'avantage, c'est que sur SoundCloud, on pourra voir que ça a été uploadé tel jour à telle heure.
Ça marche pas par contre, ça pour l'auteur, ça fera pas foi le fait que ça a été uploadé sur. Parce que c'est quand même aussi, ça prouve un peu que c'est soi. Enfin, je sais pas.
Mais alors, si je reprends ton exemple, quelqu'un t'a piqué ton son sur SoundCloud et puis il est en train de le diffuser sur les plus grandes plateformes avec beaucoup de succès. L'auteur, lui, il est super content. Parce que l'auteur, plus c'est diffusé, à la limite que tout le monde le prenne, que ça passe sur toutes les chaînes de télé du monde en 24 heures sur 24, lui, il va toucher d'autant plus de thunes. Lui, il est très content. Hein. L'intérêt de l'auteur, c'est qu'il y ait plein de gens qui chantent son truc, qui le reprennent, qui le remixent, qui le truc. Les autres, après, les propriétaires des enregistrements, les artistes, tout ça, ils se démerdent entre eux. C'est pas le problème de l'auteur. L'auteur, lui, plus l'œuvre est utilisée, plus il va toucher d'argent par l'intermédiaire des sociétés de gestion collective des droits. Tu vois, ton truc était sur SoundCloud, il y avait 200 personnes qui l'avaient écouté, très bien, puis d'un seul coup il y a quelqu'un qui te le pique sans rien te demander, sans rien négocier, il le met sur une pub mondiale pour Coca-Cola et ça passe sur toutes les chaînes de télé du monde. L'auteur, lui, super joyeux. Toi, peut-être en tant que propriétaire du truc, par contre, on t'a pas demandé ton autorisation, t'es pas très content. Donc après, c'est pareil, on essaye d'abord de s'arranger en disant, les gars, je peux prouver que là vous avez piqué mon truc. Donc, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Vous me proposez quoi? Et puis, si c'est pas assez, on discute et puis éventuellement, on s'énerve, quoi. Mais c'est toujours commencer par être calme.
Avant qu'on termine, Patrice, moi, je me posais la question donc, du plagiat. Qui gère ces histoires-là? Parce que, on a vu, par exemple, il y a eu un gros lawsuit avec Katy Perry. Donc là, je parle vraiment de plagiat parce qu'on a eu des autres affaires avec Taylor Swift et ses droits et tout ça. Mais qui décide et sur quels critères ce qui relève du plagiat ou pas? Moi, j'avais un peu l'impression que c'était des critères qui commençaient à être un petit peu, outdated, pour parler un petit peu anglais, dans la mesure où J'ai cru comprendre que c'était sur base de l'écriture, vraiment, tu vois. Enfin, l'écriture, la composition, la progression d'accords, la mélodie, le rythme, etc. Et qu'il y a des trucs qui sont hyper importants à l'heure actuelle et qui sont pas vraiment pris en compte par ces trucs-là, comme le sound design, comme plein d'autres choses, tu vois.
Oui, parce que d'abord, en définissant le plagiat, donc ça, c'est bien quelque chose qui concerne les auteurs. Mmh. Pour le coup, hein, ça concerne la composition musicale et éventuellement l'écriture des paroles. Donc, le plagiat, typiquement, c'est quelqu'un qui a repris une composition et qui l'a déclaré à son nom, alors qu'il n'en est pas l'auteur. Mmh. Alors, évidemment, il y a ces critères-là de durée, il faut un certain nombre de mesures, éventuellement. Bon, avec le texte, c'est plus facile, hein, ça, on voit bien, mais il ne faut pas juste trois mots, il faut quand même carrément que ça commence à faire des phrases. Et si elles se retrouvent de manière un peu trop similaire, il y a évidemment la mélodie qui va être un élément déterminant, mais c'est vrai que le problème que ça pose, et aujourd'hui on constate, et notamment avec le beatmaking et puis une bonne partie de ce qu'on va appeler encore pendant quelques temps les musiques urbaines, il y a une fusion qui est de plus en plus importante entre le fond, donc qui est la composition, et la forme sonore que ça prend. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah voilà, j'ai utilisé tel et tel son, je les ai agencés de telle manière, et ça ne fait pas partie de la composition. C'est-à-dire qu'historiquement, la composition musicale, ce qu'on déposait à la SACEM, c'est assez récent que la SACEM se soit mise à accepter des morceaux enregistrés, des enregistrements à titre de dépôt. Hein. Maintenant, on peut même uploader directement un fichier audio depuis leur site internet. Avant, ils s'étaient mis à accepter les cassettes, mais ça, c'est récent. Au tout début, la SACEM, fallait passer un examen pour montrer qu'on était capable d'écrire de la musique et avec une partition. Et ce qu'on déposait, c'était des partitions. Et ça, c'est resté. C'est-à-dire que ce qui reste essentiel dans la composition musicale, ça va être, comme tu l'as dit, la grille d'accords, la mélodie qui va dessus. Et les paroles, c'est-à-dire que la chanson doit pouvoir la représenter sous forme d'une partition, comme dans un songbook où on a la basse, enfin, main gauche, le piano, main gauche, main droite, la mélodie au-dessus avec le texte en dessous. Ouais. Et c'est ça qui est protégeable. Alors après, là encore, on a envie de reprendre l'œuvre de quelqu'un. Alors, on peut le faire, par exemple, comme l'a fait un certain nombre de fois quelqu'un comme Serge Gainsbourg, qui utilisait des musiques de Chopin, mais il n'a pas été le seul. Hein. Il y a quelques grands tubes des années 70 et 80 qui ont été faits à base de musique de Chopin. Chopin étant dans le domaine public, on ne doit rien à personne.
Ouais.
Bon, là, il n'y a pas de problème. Sauf si éventuellement les héritiers, comme on l'a vu tout à l'heure, pouvaient protester au nom du droit moral. Mais là encore, le droit moral, en plus, c'est quelque chose qui n'existe pas dans tous les pays et notamment qui n'est pas reconnu aux États-Unis. Il n'y a pas de droit moral sur la musique aux États-Unis. Donc, ce qui rajoute des complexités supplémentaires. Donc ça peut être une solution. Après, c'est de dire, on s'arrange, on demande l'autorisation. Typiquement, il faut demander une autorisation. Je vais reprendre un bout d'une œuvre, mais pour en faire une œuvre nouvelle, hein, c'est ce qu'on appelle juridiquement, c'est une œuvre composite. Alors c'est la même chose avec les samples, où je reprends un sample et je le réintègre dans mon morceau. Et là, il faut demander l'autorisation. Alors quand c'est juste une œuvre, c'est-à-dire je reprends la mélodie d'un titre super connu ou le riff de guitare de In Every Breath You Take pour le mettre dans mon morceau, là je vais commencer. Si c'est moi qui le rejoue, si je le fais rejouer, là, il faut que je demande l'autorisation simplement à l'auteur, parce qu'il n'y a que lui qui est concerné, puisque moi, je vais réenregistrer son œuvre ou une partie de son œuvre pour l'intégrer dans la mienne. Et si c'est un sample complet, alors là, par contre, il faut l'accord de l'auteur, celui qui a écrit la chanson, et il faut aussi l'accord des ayants droit, des droits voisins, que sont l'artiste interprète que je vais sampler et le producteur qui a financé cet enregistrement que je vais sampler. Ouais. Et ça fait beaucoup de monde à qui demander les autorisations, qui vont, c'est ce qu'on appelle clearer les droits, hein, quand on signe un contrat avec un producteur et qu'on a mis partout dans le contrat, il y a une clause qui dit si vous avez mis des samples, vous devez nous en donner la liste. Et puis on va s'occuper de demander les autorisations. Alors ces autorisations, elles vont pas être gratuites, hein. Un des plus chers, je crois que c'est Marc Serron qui a la réputation de demander 70 000 euros par sample. Voilà, tu veux sampler Serron, ok, vas-y, lui il va être content, hein. Et donc bon, ça se négocie. Et évidemment, si on le fait sans autorisation, que ce soit plagiat pur ou c'est un plagiat au sens juridique, dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on revendique des droits sur une œuvre qu'on n'a pas écrite soi-même, à ce moment-là, ça, c'est un délit, ça s'appelle de la contrefaçon, et on retombe dans le même cas que tout à l'heure. C'est soit on a un énorme succès avec ce truc, et du coup, il y a quelqu'un qui va se dire quelque part, là, il y a peut-être de l'argent à prendre, donc on va solliciter des avocats, et puis on va y aller. Le cas le plus connu de ça, c'était le procès qui a duré plus de 10 ans. Alors, le problème des procès en plagiat, c'est que c'est très long, comme pour répondre à ta question aussi, il faut des experts, à un moment donné, qui sont désignés par les tribunaux, qui vont analyser, qui sont des musicologues ou des professeurs d'université, etc., qui vont analyser les deux œuvres dont on dit qu'elles sont la même et qui vont, comme pour les empreintes digitales dans les séries policières, ils vont voir combien il y a de points qui matchent et à partir de là, ils vont aider le juge à prendre sa décision. Mais c'est des procès qui sont très très longs. Le plus connu, c'était celui de de Manu Dibango plutôt, contre Michael Jackson. Manu Dibango avait fait un morceau qui s'appelait Soul Makossa. Il a reproché à Michael Jackson de lui avoir copié son morceau pour faire Wannabe Starting Something. Le procès a duré 10 ans. Parce qu'évidemment, ce que les défenseurs de Michael Jackson ont pu dire en disant « Mais attendez, bon, Manu Dibango, certes, est un grand artiste, mais il est très loin d'avoir la notoriété de Michael Jackson. » Donc, quelque part, il utilise ce procès pour utiliser la notoriété de Michael Jackson pour se faire connaître lui-même. Ouais. Donc, il y a tout un tas de discussions qui font que, dans le cas de Manu Dibango, il a fini par gagner son procès, mais ça a pris 10 ans. Donc c'est des choses qui sont très longues. Donc là encore, un bon arrangement.
Et surtout à l'heure actuelle
où
justement j'ai l'impression que la musique évolue tellement vite. Et je te disais, j'ai l'impression que considérer une œuvre musicale comme simplement une grille d'accords et une mélodie, ça commence à être un petit peu problématique dans la mesure où on commence vraiment à... Enfin, par exemple, il y a tellement de hits qui sont basés sur la fado sol et donc on arrive avec les limites de notre grammaire musicale à avoir des morceaux qui sont quand même très similaires les uns avec les autres. Mais ce qui va les différencier, ça va être le choix des sons utilisés, l'interprétation globale, le style dans lequel c'est fait, etc. Tu vois, l'arrangement et tout ça. Et tout ça, c'est des trucs qui sont donc assez peu pris en compte pour l'instant.
L'arrangement musical, ça c'est autre chose parce que lui aussi, il peut être déposé. Auprès de la SACEM, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as repris, tu peux très bien prendre une composition qui a été faite dans un style hip-hop et puis te dire, moi je vais en faire une version en bossa nova ça va, je pense que j'apporte tellement à ce morceau, à cette composition musicale que je vais solliciter une partie des droits d'auteur pour mon arrangement, ça c'est soumis à autorisation de l'auteur.
On part du principe que c'est un type qui entend un morceau et qui se dit je vais le reprendre et je vais le mettre à ma sauce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive aussi à une espèce de... Il y a tellement de propositions musicales à l'heure actuelle, il y a tellement d'artistes et les règles dans lesquelles ils composent sont tellement restrictives qu'au bout d'un moment, il y a forcément des morceaux qui se ressemblent sans forcément que... tu peux faire deux types... sur le nombre de bouquins qui sont parus, tu vas forcément avoir à un moment des paragraphes qui disent un peu la même chose avec des mots un peu similaires, etc. Simplement parce que on est limité, tu vois.
Ouais, mais là encore, ce qui va être déterminant, c'est l'intérêt financier qu'il y a à faire une opération. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Si quelqu'un a fait, parce que ce qui est important quand on a affaire à la justice d'une manière générale, ce qui va être évalué, c'est l'intention. Ouais. On peut très bien faire un morceau qui ressemble énormément à un autre, mais qu'on n'a jamais entendu. C'est le hasard, parce que comme tu l'as dit, il y a 7 tons, 5 demi-tons terminés, donc forcément le nombre de possibilités est limité. Si à un moment donné on a pris en toute conscience, c'est ça qui va être pris en considération par le juge si on en arrive au procès, ça va faire partie des éléments, c'est-à-dire que si à un moment donné on a consciemment utilisé un morceau dont on savait qu'il était à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre peut prouver que vous l'aviez entendu, parce qu'il a été très diffusé, soit parce que peut-être dans le cadre d'une collaboration qui finalement n'a pas abouti, il vous avait fait écouter des trucs avant que ça sorte. Mais s'il peut démontrer que, vous aviez connaissance de ce morceau-là, donc ce qui est très facile s'il a été communiqué au public, évidemment. Ensuite, si vous avez à un moment donné eu l'intention de même pas de nuire à cette personne-là, mais quand vous avez fait les, vous avez recopié son morceau en toute connaissance de cause, là, et après, le, bah, c'est le degré de similitude qui va être l'élément essentiel de savoir est-ce que c'est juste une aspiration. Et puis c'est vrai qu'en plus, si on rajoute les outils qu'on a maintenant, par exemple type Melodyne, où on peut carrément changer des sources polyphoniques. Ouais. Donc on peut très bien aller rechoper ou resampler juste une partie de guitare d'un truc et puis changer trois notes dedans en disant bah oui mais regardez non il dit que je lui ai piqué son truc mais son enregistrement on entend bien que c'est un sol majeur et moi dans le mien vous voyez bien que c'est un sol mineur donc ça n'est pas le même monsieur le juge. Ouais. Donc là encore c'est, il va y avoir une question de bonne foi, jusqu'à quel point vous êtes de bonne foi, c'est ça, ça va être l'élément, l'élément essentiel.
Mais c'est, ouais. Ce qui est intéressant dans ce que disait Michel, c'est que il y a peut-être une notion effectivement qui n'est pas pris en compte d'un point de vue légal et qui pourtant s'impose de plus en plus dans la musique, c'est celle effectivement du sound design. Imaginons dans un morceau, un type à un moment, il fait un drop, ça baisse, avec, y a le pitch baisse avec une texture particulière, il fait une combinaison d'effets en même temps avec une automation, je ne sais quoi, un truc qui va donner de l'identité, un truc très spécifique, un peu sa propre sauce à un élément comme ça sonore à un moment du morceau. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on se démarque beaucoup, de plus en plus dans la musique. C'est en ayant des petites sauces comme ça, secrets, des petits trucs techniques, des petits trucs de sound design comme ça qui différencient de l'autre. Est-ce qu'on peut envisager que petit à petit, ce soit, pourquoi pas ça, qu'on puisse imposer sa marque dessus, qu'on dise ah non, ça m'appartient cette façon de faire, c'est du plagiat si tu refais. Enfin, tu vois tellement ça devient important aujourd'hui dans la musique.
Ouais, mais alors le mot clé dans ce que tu viens de dire, c'est marque. Ouais. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que là, on est à la frontière du droit d'auteur. Et du droit des marques. On peut déposer une marque, une signature, une marque sonore. Il y en a qui sont voilà, des grandes enseignes et des grandes entreprises qui ont une identité sonore et celle-là, elle est déposée, mais elle est déposée en tant que marque. C'est quelque chose qui effectivement est pour l'instant pas pris en compte parce que bon, c'est déjà assez compliqué comme ça avec une partition, donc si en plus faut le voir que ah bah oui mais ça c'est, il a utilisé la même basse 1965 Fender qui a été passée dans le même ampli et enregistrée avec le même micro, donc il m'a piqué mon son parce que quelque part on en est un peu là. Ouais. Et c'est vrai que toutes ces règles ont été pensées à une époque où on n'avait que des instruments acoustiques, puis après sont arrivés des instruments électriques, ensuite sont arrivés des instruments électroniques, maintenant on a des instruments informatiques, donc on a de plus en plus de puissance effectivement pour faire des choses qui sont d'une très grande originalité, mais qui dans l'absolu sont difficiles à protéger uniquement sur la base du droit d'auteur.
Ouais.
Et après, faut éventuellement peut-être aller plus loin, mais on rentre dans des choses qui deviennent très complexes en termes de preuves.
Et puis ça crée même, c'est presque un truc philosophique, c'est-à-dire que en fait là, l'exemple que j'ai pris là, que j'ai inventé, c'est très technique. C'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement dans la création de l'esprit, en tout cas d'une autre manière. Mais justement, est-ce que la technique, il y a une part d'inventivité, de création d'œuvres intellectuelles dans la technique, dans la mise en œuvre de la technique? Est-ce que c'est pas le cas? Parce que tu comparais par exemple telle guitare dans tel ampli avec telle pédale, est-ce que je pourrais le déposer? C'est un peu ça effectivement, une petite sauce technique comme ça d'ajustement d'éléments entre eux. Mais ça pose la question de la musique d'aujourd'hui. Bon, on va pas rentrer là-dedans, hein, on discutait longuement, mais est-ce qu'elle n'est pas devenue plus technique que créative? Ou alors, est-ce que là, il faut plus envisager la technique, la séparer vraiment du pur créatif, du pur artistique, et dire, bah non, aujourd'hui, la technique est partie intégrante du créatif artistique, il faut revoir notre notion d'œuvre intellectuelle, par exemple, de création de l'esprit. Parce que la technique est tout autant intégrée dans tout ça, beaucoup plus qu'auparavant, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mon truc, mais...
Oui, non, mais si, je vois, enfin, moi, je vois bien, je pense comprendre ce que tu veux dire, mais enfin, à un moment donné, il faut tracer une limite quelque part, parce qu'effectivement, ces morceaux-là, il y a des gros tubes qui sont faits sur des sons très particuliers, ou même le problème se pose, même avec le hip-hop. Ça me fait penser à Bob Dylan. Il y a quelques semaines, il a vendu 600 chansons pour au moins 300 millions de dollars.
Un fonds d'investissement.
Pourquoi Universal paye autant d'argent?
Parce que Bob Dylan, ça fait longtemps, c'est Neil Young récemment, je crois, c'est ça, non?
Alors, ouais, oui, tout le monde s'y est mis pour tout un tas de raisons, Stevie Nicks aussi, etc. Mais bon, le deal le plus important, c'est celui de Bob Dylan, prix Nobel de littérature, machin. Bon. Pourquoi Universal paye 300 millions de dollars pour ce truc-là? 600 chansons. C'est parce que Bob Dylan est l'artiste américain le plus repris par d'autres personnes. Et si on regarde cette musique très technique, très basée sur le son, j'ai fait ma sauce sonore, elle est très particulière, elle plaît à l'oreille du public et c'est ça qui marche. On constate, et on le voit avec des morceaux de rap, il y a eu des énormes tubes de rap, ils font pas l'objet de reprises, parce que c'est pratiquement impossible à reprendre un morceau de hip-hop. Donc, il va avoir du succès tant que cet enregistrement-là aura du succès, mais l'œuvre en elle-même est tellement tributaire de sa forme qu'elle rend très difficile le fait que de la réactualiser en fonction des goûts, de la faire interpréter par d'autres personnes. Parce que c'est pas chanté ou pas vraiment. Et puis alors si on rajoute effectivement ce qu'on fait aujourd'hui avec Autotune ou équivalent pour faire les sons, ça devient encore plus insortable. Donc c'est un peu cet inconvénient que je vois où on est à la limite du droit des marques. Mais est-ce que après est-ce qu'on faudrait savoir si mais ça j'ai pas la réponse à ça, si justement l'Institut national de la propriété industrielle pour le coup intellectuelle se accepterait parce que quand on veut déposer, il y a des marques qui ont essayé de déposer des virgules sonores, on pense au thème de la SNCF par exemple, ou des choses comme ça. Alors des fois c'est accepté, mais pas toujours. Parce qu'on rentre, c'est pour la musique, c'est vraiment, vraiment pas évident. Quoi.
Mais c'est intéressant en tout cas pour conclure cette discussion, ce que tu as lancé là, Michel, c'est de dire quand même que on comprend qu'il y a une base légale, législative qui a été installée à une époque de l'industrie de la musique enregistrée, ça a tellement changé aujourd'hui. Et comme tu le disais, d'ailleurs, c'est un peu un des premiers trucs que tu as dit, il me semble, Patrice, c'est la loi a toujours un peu de retard par rapport aux pratiques, aux usages.
Parce qu'il faut laisser le temps pour analyser ce que font, faut laisser les gens libres de s'organiser. Et puis, une fois que ça a atteint un niveau économique, parce que la loi protège l'argent beaucoup quand même, et une fois que ça a atteint un certain volume d'activité économique, petit à petit, on le voit en ce moment avec les crypto-monnaies par exemple, petit à petit, on met du cadre. Et donc il est important ce délai. Ouais.
Et fondamentalement, Michel, peut-être effectivement, on a une époque comme ça un peu où la musique prend une autre forme, la créativité prend une autre forme, pas que, hein, c'est des domaines de la musique, et qu'effectivement, c'est peut-être un peu moins adapté l'arsenal.
J'ai surtout eu l'impression qu'il y a eu un tel shift à tous les niveaux, tu vois, que ce soit en termes de quantité de musique proposée, le nombre de beatmakers qu'il peut y avoir maintenant, d'artistes, auteurs-interprètes, parce que la technologie permet à peu près n'importe qui de faire ça et d'avoir un niveau suffisant pour se professionnaliser. Moi, je le dis souvent, c'est 3 mois à temps plein. En 3 mois à temps plein, avec les tutos qu'il y a maintenant sur Internet, les plugins qui font tout pour toi tout seul, etc., t'as le niveau suffisant pour percer dans l'industrie de la musique. Donc, et les jeunes l'ont très bien compris, tu vois. Donc, ils le font. Et
ils ont raison.
Entre ça, la distribution, le mode de consommation qui a changé, etc., j'ai l'impression que tous ces trucs-là, toutes les affaires de plagiat basées sur le squelette harmonique et mélodique de quelque chose, je pense que ça va trouver ses limites dans très peu de temps. Après, je suis pas du tout un spécialiste, c'est pour ça que je posais la question à Patrice, tu vois.
Même si ça a toujours du sens dans plein de styles musicaux, etc.
Oui, c'est ça. Je pense que ça a du sens pour plein de styles musicaux, mais en plus avec la prépondérance du hip-hop, du rap, etc. Tu vois, comme disait Patrice, c'est des trucs qui sont très difficiles à reprendre, et surtout il y a des trucs qui sont de plus en plus minimalistes. Tu vas prendre une track comme j'allais dire Bad Guy de Billie Eilish, mais encore, là, t'as une structure harmonique assez claire, etc., mais t'as vraiment des tracks où tout se passe dans le bas du spectre. T'as un kick, un sub et une voix. Si quelqu'un refait la même chose avec, juste un autre texte par-dessus, est-ce que ça peut être considéré comme du plagiat? Et en plus, il me semble, Adam Neely avait fait une vidéo là-dessus. Il y a des types qui ont essayé un peu, je pense, de baiser tout ce système-là, en générant avec une IA un maximum de mélodies et de grilles harmoniques possibles pour ensuite eux les protéger et dire en gros maintenant en fait ce droit d'auteur là n'existe plus parce que justement eux l'ont fait avec un état d'esprit très internet libre et on veut protéger justement la libre création mais l'idée c'était que eux ils voulaient faire ça avant que des entreprises commencent à le faire. Parce que s'il suffit d'enregistrer ta mélodie et ta grille d'accord pour dire ça m'appartient, Avec l'avancée technologique, avec les IA, etc., tu peux composer en quelques heures des milliards de morceaux. Et après, tu les enregistres et après, ça t'appartient. Et si quelqu'un fait quoi que ce soit, t'es baisé.
Ça, j'imagine qu'il y a un dispositif qui existe au niveau légal pour éviter que n'importe qui se mette à composer à balle et dépose et dit « Ah non, dès que quelqu'un sort le truc, ah non, c'est à moi. » J'imagine qu'il y a un truc qui évite ça quand même. Parce que même sans l'IA, on pouvait commencer déjà à développer un peu cette idée de peut-être détourner le truc comme ça. Ça a déjà existé, les trucs comme ça, Patrice ou...
Bah écoute, à ma connaissance pas, et j'avais jamais entendu parler non plus, je l'avoue, de cette initiative-là, mais bon, l'idée est marrante, mais après on va rentrer dans tout le processus que je décrivais avant, c'est-à-dire il faut que les personnes qui se disent titulaires de ce droit-là, en fait, ça va être à eux de prouver qu'il y a eu un plagiat, parce que quand on dit « c'est pas vous qui avez le droit, mais c'est moi qui ai le droit, donc je revendique ». Étant le titulaire de ce droit-là, dans ces cas-là, la charge de la preuve en justice incombe sur la personne qui dit être le titulaire légitime du droit. Mmh. C'est à lui de défendre son beefsteak. Ouais. Donc là, on va rentrer dans des choses qui vont être très compliquées de prouver que vous l'avez entendu. Alors, bien sûr, peut-être ils auront mis ça sur toutes les plateformes ou sur SoundCloud ou sur machin, mais si on voit que sur SoundCloud, il y a eu 17 streams de ce truc parce que c'est purement instrumental et fait de manière robotique, ça sera facile de dire « Attendez, vous n'allez pas dire qu'il y a eu 17 streams ?» Parce que la majeure partie des catalogues ou des plateformes de streaming type Spotify et Deezer, c'est eux-mêmes qui le disent. Il y a une proportion gigantesque des titres qui sont sur dans leurs ordinateurs qui n'ont jamais été streamés, pas une fois. Donc, il suffit que ça tombe sur un morceau où il a été streamé 3 fois par les personnes qui l'ont déposé. Par contre, si un de ces morceaux généré par IA fait... Alors, surtout s'il a été généré par IA, parce qu'il y a quelques semaines, évidemment, la loi bouge encore là-dessus. Ouais. L'Union européenne vient de décider qu'une œuvre qui a été faite par une intelligence artificielle ne peut pas être protégée par le droit d'auteur.
Ah, c'est marrant, parce que figure-toi que je sais que à la SACEM, il y a des IA déposées. Aïva, notamment, qui est une des IA, je me demande si c'est pas celle de Sony ou un truc comme
oui,
ça.
Oui, ils ont été.
L'IA est inscrite en tant qu'auteur à la SACEM.
Alors, l'IA, en tant que le problème, c'est. Ça va pas être l'intelligence artificielle, mais ça va être la société. Le problème, c'est que, par exemple, pour les œuvres de collaboration, ça pose des problèmes juridiques, mais qui sont un peu... Bon, après, ça devient vraiment du débat juridique. Il y a, dans le texte de la loi française sur la protection du droit d'auteur, il est dit, pour les œuvres de... je sais plus si c'est les œuvres de collaboration, que ça doit être une collaboration entre personnes physiques. Donc, ce qui exclut les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises. Et il va y avoir des débats, mais ça va durer des années, ces débats-là. Parce que là, pour l'instant, effectivement, la SACEM a très bien pu accepter la société EVA qui en tant qu'auteur à la SACEM. Mais si le droit européen, parce que bon, l'Union européenne a un peu la SACEM dans le collimateur pour d'autres raisons, donc ils s'en disent, c'est pas le grand amour entre la SACEM et l'Union européenne, ou en tout cas une partie des députés du Parlement européen. Donc ce qui fait que l'Union européenne commence à elle pousser ses pions pour dire, bah non, on va pas être inondé justement d'œuvres générées aléatoirement par des intelligences artificielles et puis qu'après la personne... Parce que ça pose le problème de l'intelligence artificielle de qui va être l'auteur. Est-ce que c'est la société qui a créé le programme informatique qui est cette intelligence artificielle? Est-ce que ça va être l'utilisateur du programme qui l'aura paramétré d'une certaine manière? Parce qu'on la voit arriver de plus en plus. Demain, ça va être des plugins et des choses comme ça. Donc, est-ce que si j'ai un plugin d'intelligence artificielle qui me génère une top line, est-ce que c'est la société qui fabrique le logiciel qui est propriétaire de la top line, puisque c'est elle qui a fabriqué l'intelligence artificielle? Ou est-ce que c'est moi, parce que c'est moi qui ai fait certains réglages sur les 3 paramètres qu'on m'a permis d'accéder sur le plugin? Bonne question.
Ouais.
Et ça, on n'a pas la réponse. Donc pour l'instant, l'Union européenne, elle joue la prudence. Elle dit, bon, tout ce qui est intelligence artificielle, pas de droit d'auteur. Et après, on verra. Là encore, il y aura du retard, il y aura des habitudes qui vont se prendre. Il va y avoir des énormes succès qui vont faire que il y aura suffisamment d'argent en jeu pour qu'il y ait des procès, que les gens se fassent la guerre pour ces trucs-là, avoir récupéré des thunes. Et puis, à partir de là, les juges prendront des décisions, il y aura de la jurisprudence. Et puis, petit à petit, ça va prendre 10, 15, 20 ans, tranquille, quoi.
Ça me fait penser à... Mais ouais, c'est passionnant, ça me fait penser à cette affaire de... Il me semble que c'était un singe, un gorille, un autre joueur qui avait pris une photo et on se demandait à qui appartient la photo.
Ouais.
Est-ce que c'est le photographe qui lui a mis l'appareil entre les mains, ou comme c'est lui, l'animal, qui a pris sciemment la photo, qui a décidé de prendre une photo, est-ce que ça lui appartient ou pas?
Et on a tranché cette question-là ou pas?
Je sais plus. Je sais plus.
Mais en tout cas, il y a eu un vrai... J'ai pas suivi, j'avais vu la question, mais...
J'espère que c'est le singe. Franchement, si c'est pas le singe, je suis dégoûté.
Bah oui, mais après, le problème, c'est, voilà, c'est comment défendre. Est-ce que un animal peut agir en justice? Déjà, c'est la capacité juridique est pas donnée à tout le monde. Elle l'est à plus en plus de gens. Mais par exemple, les mineurs l'ont toujours pas au 21e siècle. Et un animal, a priori, a pas forcément une capacité juridique. Est-ce que, tant que c'était un animal qui était pas, il me semble, enfin, qui appartenait pas à quelqu'un, donc personne peut vraiment aller revendiquer au nom du singe la propriété de la photo.
Ouais. Mais pour le symbole, parce qu'en vrai, qui en a quelque chose à foutre de cette photo, quoi. Mais pour le symbole, j'aurais été trop chaud de dire lui, c'est le singe qui a pris une photo, quoi.
Et il peut qu'il prenne son billet, le singe, comme ça.
Mais franchement, tu vois, tu le mets bien, quoi, tu vois.
Je suis d'accord. C'est ce qu'on appelle de la monnaie de singe.
Très bien. Bon, bah super, on a fait un bon petit point.
Ouais. Patrice, est-ce que tu serais d'accord de nous faire un petit résumé très succinctement et le plus clairement possible? Je sais que tu en as les capacités, je crois en toi. Par exemple, voilà, comment ça se passe? J'ai créé un morceau. Pour être protégé, qu'est-ce que je dois faire?
Alors, si tu as composé le morceau, c'est ton morceau. La première, une chose importante à faire, c'est le déposer à la SACEM ou équivalent dans le pays dans lequel tu te trouves. Au moins, ça assurera déjà une date. On sera sûr de la date à laquelle tu l'as déposé. Ça permet d'éviter toute contestation future. Et éventuellement, si le morceau est utilisé et qu'il est beaucoup utilisé, bah, ça rapportera des sous. Ça, c'est une chose importante à faire. Et il faut bien savoir que, parce que j'ai entendu des fois des rumeurs qui disent que si on a déposé son morceau à la SACEM, on ne peut plus le mettre sur des plateformes pour vendre des sons. Ça, c'est pas vrai. Hein, il faut protéger ses morceaux. Ça, c'est le truc numéro un à faire quand on a composé un morceau, c'est de mettre ça, de le déposer à la SACEM. Et si on l'a fait à plusieurs, c'est de discuter, de savoir qui. Alors bon, aujourd'hui, les enjeux sont financiers. Comme tu l'as dit, il y a tellement de musique que les enjeux sont financiers. Le gâteau a peut-être grossi un petit peu, mais le nombre de parts qu'il y a dans le gâteau a tellement explosé qu'évidemment, chaque part est plus petite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je milite toujours pour que, y ait un partage équitable des choses qu'on fait. Voilà, on fait les choses ensemble. On partage à part égale, et puis voilà. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ce qui est le cas général, bah c'est pas grave, on en fera d'autres, et puis voilà. Les ennuis viennent avec le succès et l'argent, de toute façon.
Exact.
Avant, ça va.
Je peux t'en parler.
Donc, première chose à faire, c'est ça. Et puis, une fois que ça c'est fait, j'ai envie de dire, après, on peut aller mettre le son sur des plateformes, passer par un distributeur numérique, en fonction de son budget, de ce que faut regarder un peu tous les éléments. Est-ce qu'ils prennent des points sur ce qu'ils reversent des streams ou pas? Est-ce que on paye qu'une seule fois ou est-ce qu'il faut repayer tous les ans pour que ces morceaux restent sur les plateformes, etc. Bon, il y a tout un tas de critères. Ça après chacun trouve chaussure à son pied, j'ai envie de dire, c'est pas l'offre qui manque. Voilà, c'est un peu l'essentiel, mais au niveau de la compo, l'essentiel c'est la société de gestion collective, quoi. C'est le truc. Et puis après, pour se protéger, une fois que ça a été communiqué au public, il peut se passer des tas de choses, mais si à un moment donné on se sent lésé, j'ai envie de dire quelque part c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que si quelque part il y a des gens qui gagnent vraiment de l'argent avec mon son, au moins au début, c'est une bonne nouvelle. Je vais essayer de leur parler, puis de leur expliquer les choses, et on finira bien par s'arranger, quoi. Ouais. Voilà, c'est en gros, c'est ça. Parce que la plupart du temps, on va mettre des sons en ligne, mais bon, personne n'en a rien à faire. Ils ont été écoutés 4 fois. Voilà.
Et dans le cas de l'artiste auteur qui est aussi propriétaire du master, donc producteur. Est-ce qu'il y a d'autres démarches? Il n'y a pas seulement la société de collective, la SACEM en l'occurrence, comme pour l'auteur. S'il est aussi producteur, voilà. L'artiste un peu aujourd'hui, home studiste, qui gère absolument tout seul, qui fait tout seul, lui, c'est quoi les démarches pour protéger sa musique?
Pour protéger ses enregistrements, au niveau du producteur.
Voilà, oui, auteur, on a déjà expliqué comment le faire, mais pour l'aspect producteur.
Le producteur, comme je disais tout à l'heure, il est naturellement protégé à partir du moment où il met son enregistrement, son master, il est communiqué au public, donc il part sur les plateformes, sur Internet, partout, éventuellement il fait fabriquer des supports, des CD, des vinyles, etc. Là, ça devient du commerce, en fait, fondamentalement, on essaye d'éviter qu'il y ait des gens qui l'utilisent sans autorisation, et puis après, alors on peut se rapprocher, si on est indépendant, évidemment, la SCPP, c'est un peu gros, parce que c'est là qu'il y a les majors, hein, la société des producteurs, il faut mieux se rapprocher de la SPPF, qui a les indépendants. Après, il peut y avoir aussi des ressources d'information très intéressantes du côté des managers. Il y a plusieurs groupements de managers, dont le Music Managers Forum France. Et la cotisation, parce que bon, c'est une association, hein, la cotisation est tout à fait abordable, c'est quelques dizaines d'euros. Et c'est aussi un moyen d'entrer en contact avec, parce que bon, là, c'est des managers, donc des gens qui managent des artistes, mais il y a des informations à récupérer. Et puis après, si on a un peu plus de budget et qu'on s'intéresse aux questions de business, bah, il y a des salons où aller. Alors, on n'a pas forcément les moyens de se payer l'entrée au MIDEM, mais à Paris, régulièrement, il y a le MAMA tous les ans à l'automne, qui est là encore un lieu où on peut aller. Alors, il y a plein de concerts en plus, enfin, quand c'est possible, qui sont organisés, mais c'est un endroit qui est vraiment très chouette pour, parce qu'après, il faut faire du networking. Ça reste des métiers humains, tout ça. Tout ça reste des métiers, un ensemble de professions qui sont très humains. Et donc, c'est important de pouvoir rencontrer les gens et de savoir qui fait quoi, parce que ça aide aussi à comprendre. Une fois qu'on a bien compris qui fait quoi et à qui je dois m'adresser, les choses deviennent assez vite limpides. Je sais que tout ça a l'air très touffu, mais en fait, ça prend pas beaucoup d'efforts pour mieux comprendre les choses, et ça vaut le coup de faire ce petit effort-là.
En résumé, entourez-vous, inscrivez-vous à tout ce qui permet de protéger votre musique, faites la démarche administrative, même si c'est un peu embêtant, mais ça vous évitera des ennuis derrière, comme ça vous êtes bien réglo, etc. Discutez quand vous êtes à plusieurs sur un même morceau, discutez entre vous, mettez-vous d'accord en avance, etc., comment on partage, etc. Et puis n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, à contacter un avocat, par exemple, pour avoir des conseils, effectivement.
Ou à payer un resto à Patrice.
Ou à payer un resto, une 4 fromages à Patrice.
Voilà, mais là, dans ces cas-là, vous n'aurez pas de conseils, vous n'aurez que des informations.
Que des informations, voilà. Très bien. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Allez, je m'inclus même. Merci à nous trois pour cette émission.
Merci à toi aussi.
Merci à vous deux.
C'était très intéressant. J'espère qu'on a filé un coup de main aux gens et qu'on a appris plein de trucs aux gens qui nous écoutent. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de trucs et j'ai trouvé ça passionnant. Patrice, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet notamment, si on veut voir un peu ton travail, des informations, comment ça se passe, c'est quoi l'idéal, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant?
Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Alors, il y a d'un côté une chaîne YouTube sur laquelle je m'exprime à intervalles un peu irréguliers, mais sur des questions, sur des points de business ou des points d'actualité. Je l'ai pas mal fait ces derniers mois quand il y avait justement besoin de décortiquer un petit peu pourquoi Bob Dylan a agi comme ceci. J'ai une longue vidéo sur l'histoire de la propriété intellectuelle, qui est quelque chose que même les professionnels des maisons de disques et tout ça ne connaissent pas. Et pourtant, ça permet... Alors c'est long, hein, c'est une vidéo de pas loin d'une plombe, mais ça permet de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Et puis des vidéos plus rapides,
donc la chaîne,
plus brèves.
Sur Patrice Lazareff, sur YouTube, on tape Patrice Lazareff.
Oui, en cherchant Patrice Lazareff, on va la trouver
très bien dans
facilement.
La description,
Google, ouais. Google, c'est beaucoup plus de choses sur moi que ma propre famille. Donc ça, vous pouvez y aller. Et puis après, moi, je fais pas mal de veilles, justement, techno. Donc je peux être suivi, que ce soit sur Twitter, Facebook, ou je préfère personnellement LinkedIn. Et c'est toujours
c'est
P Lazareff tout enchaîné.
C'est toi le type qui est sur LinkedIn. On l'a trouvé.
Pardon.
Non, il te dit c'est toi qui es sur LinkedIn, parce que c'est vrai que parfois on a quelques personnes liées au podcast qui nous contactent sur LinkedIn, et à chaque fois on se dit mais normalement c'est sur Insta, sur Twitter. Donc il y a quelques personnes quand même sur LinkedIn.
J'ai trouvé que LinkedIn, même dans ces derniers mois, ça a beaucoup, ça m'a apporté justement dans cette logique de contact. J'ai été interrogé par des entreprises, alors pas d'entreprises françaises, bizarrement, mais LinkedIn m'a apporté beaucoup cette année. Ouais.
L'aspect plus professionnel, effectivement. Ouais. Clairement. Ok, super. Donc les réseaux sociaux. Moi, par exemple, je suis sur Twitter. Effectivement, régulièrement, tu retweets des articles intéressants sur l'industrie, etc. Donc n'hésitez pas.
Et
Michel, toi.
Bon. Chronomusique, hein, partout, surtout sur Twitter, hein, suivez-moi sur Twitter, c'est là que ça se passe.
YouTube, Twitch, Chronomusique.
Non, juste Twitter.
Juste Twitter, très bien. Et moi, oui, effectivement. Et bah, réseaux sociaux, pareil. Instagram, Twitter, Salman Sali, aussi sur Facebook, mais surtout Insta, c'est là où je suis le plus probablement. Enfin, là où j'échange le plus. Voilà. Après Twitter aussi, mais je regarde surtout Twitter, j'interagis un peu moins, mais j'aimerais bien m'y mettre plus. Donc suivez-moi sur Twitter aussi, en vrai, si, effectivement.
Voilà.
Et puis, n'hésitez pas surtout à mettre en avant ce podcast, à en parler à vos copains. Si vous écoutez en version audio, venez regarder ce qu'on fait aussi en vidéo sur la chaîne Monte le Son. Et inversement, si vous regardez en vidéo, si vous voulez l'avoir toujours dans les oreilles, vous allez au boulot, je ne sais quoi, vous pouvez prendre en audio. Abonnez-vous, mettez des étoiles, c'est vraiment super important pour nous.
Prenez soin de vous et bien de vos proches. Absolument. En ces temps très
compliqués. Mais on parlait de nous là, pourquoi tu parles des autres?
Je suis de gauche.
Mais non, évidemment, prenez soin de vous. Merci de nous suivre. SO à Thoman aussi, qui nous permet de faire cette émission. Et puis, on vous retrouve dans un mois avec un autre sujet, encore un truc, j'en suis persuadé, qui sera passionnant. Patrice, à bientôt. Michel,
eh ben à bientôt. Merci de votre accueil.
Merci à toi. Bye bye. Ciao, ciao.